doit-il lui faire grâce de ta présence?
On est chez toi, Pierre, c'est ça?
Exactement, on vient juste. Là, on est encore un peu sur la.
Oh, ça va, ça a l'air bien installé quand même.
Sans hey, dans le. Mais ouais, ouais.
Le petit chat! Il piccolo gatto!
Hey, il gatto, come va?
Ça va, toi? C'est bien installé?
Ça...
T'as réussi à te débarrasser de tes frigos là?
Non! J'ai trois frigos là! Parce que j'en ai encore un à Versailles! J'en peux plus de tous ces frigos là!
Pour te faire gagner!
Rémi, je crois qu'il y a ton café qui est.
Ah, le caveau qui joue!
Je l'ai pas lancé!
Ah bon?
Bah non, j'attends le départ!
Je sais pas, j'entends un bruit là-bas!
Ah ouais, t'as une frame de tir!
T'as une frame de tir!
Ouais. Bah, j'ai envie qu'il soit chaud quoi, c'était ouf ou quoi?
Ah,
ouais, regarde, il était complètement aigué! Et t'as pas laissé ton cerveau au vent toi?
Un petit peu, j'ai l'impression!
C'est bon, non?
Ah non, c'est j'avais juste laissé allumer le gaz!
Tu vois, c'est pire encore!
Ah bah écoute,
Rémi et Sébastien.
C'est une super série ça, Rémi et Sébastien. ça sonne truc français l'après-midi.
Ok, bah écoutez, on
c'est
a.
Quelqu'un qui a perdu sa famille et l'autre qui a perdu son chien.
Il arrête pas. Il a perdu son chien, il arrête pas de dire à l'autre genre, je comprends vraiment ce que tu ressens. Moi, j'ai perdu mon chien, l'autre genre,
ouais,
frère.
J'ai quand même perdu l'intégralité de ma famille que je connaissais bien en plus. Moi, enfin, j'étais en âge de m'en souvenir. Oui, oui, non, je comprends.
Moi, c'est pareil.
Bah, je suis pas sûr que ce soit vraiment
c'est
comparable.
Tellement
quoi.
Dur. Oh là là. L'épisode n'a pas
commencé. Il y a 30 minutes de rush là.
Ouais. Déjà ?
Ouais.
Ça fait 30 minutes qu'on parle ?
Ouais.
Oh merde. Sérieux ?
Allez.
Wow, t'as enlevé ta montre pour.
Ouais, comme Emmanuel Macron.
Le temps ta maîtresse. Tu peux pas passer.
Je suis pas venu ici pour me faire insulter, punaise.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pardon GPT, c'est l'épisode 9. Nous sommes très heureux de vous retrouver, c'est la rentrée pour nous. On est très heureux, je suis toujours avec mon co-host Rémi Boy.
Bonjour.
Bonjour, tu es tout calme d'un coup?
Ouais, bah maintenant qu'on tourne de jour là,
c'est vrai.
Bien la dernière fois de nuit.
C'est vrai que c'était une expérience assez folle.
Ouais,
assez
à refaire. Migrante.
Un peu une vibe Thierry Ardisson Paris
ouais.
Dernière fois.
Un peu ça, ouais, ça se servait du pinard entre les... c'était cool.
Il y a Frigide Barjot qui a débarqué,
ouais.
Trop bizarre quoi.
J'adore, on l'embrasse.
Tout va bien, la rentrée, de nouveaux projets, c'est fini pour toi?
Je sais même plus où on a été.
La fois. Plomberie.
La plomberie, ouais. Ah oui, c'est vrai que je suis plombier.
Rémi les bons tuyaux.
Ouais, ouais, bah ça continue. Bah, je peux pas vous en dire plus, mais il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. T'as niqué ma vanne, elle était super.
Dans les tuyaux, oh non.
La plomberie, en fait, ça se passe tellement bien que je pense que je vais faire juste monter la valeur de ma boîte de plomberie et la revendre à prix fort.
Ok.
Pour enfin revivre ma passion qui est la musique.
Revenir au final.
C'est un full circle.
Ok, d'accord.
Et on risque de se reformer avec les Funky Boys.
Les Funky Boys, donc ouais. Toujours sur Jazz Rock ou tu vas essayer de disrupter un petit peu
je
la formation?
Je ne vais pas trop en dire, okay, d'accord. Je garde ça pour la prochaine fois.
Bah, un SoundCloud, allez surveiller ça. Vous avez entendu sa voix? Nous sommes toujours accompagnés de Zul, à Zul à la prod.
Hello!
Tu vas bien, tu as passé de bonnes vacances.
Des quoi?
Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu as été dans des montagnes encore, tu as été suivre des gens qui faisaient des courses.
Oui, j'ai été interviewé des ultra-trailers à Chamonix.
Ultra-trailers. Ouais.
Voilà, des gens passionnants.
Ok.
Mais fatigants.
Ok, bah on les embrasse.
Oui.
C'est vrai qu'il y a eu l'UMT ou je sais pas quoi.
L'UTMB. Donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 170 km autour du Mont Blanc avec plus de 10 km de dénivelé positif.
J'ai une question con. Vous croyez que ça existe le... Tu sais, les trucs de trail, c'est quand ils courent tout le temps, là, ils font du marathon loin. Enfin, du marathon, ils font de la course très loin et c'est un petit peu se surpasser en solitaire. Et je suppose qu'ils ont deux barres de céréales dans le sac et ils essaient de courir le plus vite possible et le plus longtemps possible, ça.
C'est un peu ça, ouais.
Je crois qu'il y a une sorte de... Je suis sûr que là, avec tous les mecs qui adorent se dépasser, tout ça, et les meufs, le truc de faire de l'ultra-trail où tu dois chasser au milieu.
Ah, ça serait trop bien.
Ça existe, tu vois, du genre du primal trail, tu vois. Ou tu dois vraiment courir, et si t'as faim, frère, tu dois buter quelque chose. Moi, je voulais qu'il y ait des meurtres. Moi, je veux que le gars, il arrive à la fin avec une biche sur le dos, et là, genre, il a une biche, c'est plus 8.
Ouais, alors que moi qui suis végétarien, je me ferai avoir, puisque j'irai chercher des champignons, des trucs comme ça.
Le cueilleur.
Le cueilleur, pas du tout chasseur. Le
Sébastien, il s'est inscrit en tant que cueilleur, du coup. Bon,
bah, ouais, si je bouffe que des murs, putain, il y a des champignons, je vais pas aller loin.
T'as pris ta serpe?
Très dangereux d'ailleurs.
C'était que des mecs genre Un artichaut qui a été flanqué. T'as une serve et un livre des champignons vénéneux en gras. Et une loupe.
Pour éviter l'Into the Wild. Et oui, vous avez entendu sa douce voix. Nous sommes accompagnés par un invité qu'on est très heureux d'avoir. C'est Sébastien Chassaille.
Merci. Oh, il pleut. Ah non, c'est des applaudissements.
Ouais, c'est vrai que c'est aussi, ça m'a fait un peu. Ça, ouais.
Tu vas bien?
Ouais.
T'as passé des bonnes vacances?
Ouais. Bah, tu sais, moi j'ai un petit qui a 6 ans et demi.
C'est ça, ouais.
Et on a fait un truc super, c'est qu'on est allé qu'avec des copains et des copines de lui, surtout. Et c'était génial, puisqu'il s'est éclaté pendant toutes les vacances, donc c'était parfait.
Après, on te posait la question à toi.
Ouais, mais après, c'est intéressant.
Je sais, mais en fait, c'est parce que quand t'as des. Enfin, souvent, les jeunes parents, ou maintenant ça fait 6 ans et demi, donc ça fait longtemps, mais on se rend compte que les vacances, c'est plus les mêmes avec les enfants. Et c'est normal. De fait, moi j'ai pris un vrai plaisir à penser que en fonction de lui et pas que des trucs relous, genre des activités, des trucs, des machins, vraiment avec
c'est
des potes.
Et
c'était super.
Du coup,
il
faut s'entendre avec les parents.
Et on
les
s'entendait
copains,
hyper
les
bien avec tous les parents qu'on a croisés cet été.
Mais
et c'était génial.
C'est donc la méta.
Villa
non, on a bougé, on est allé un peu Côte d'Opale, qui est un endroit que j'aime beaucoup. On est descendu un peu jusqu'à vers Criel-sur-Mer, à côté du Tréport, et après un peu de Bourgogne, à chaque fois soit chez des gens, soit on louait des trucs. C'était super.
Il y a un groupe WhatsApp de parents.
Il y a exactement un groupe WhatsApp de la maternelle dans laquelle était mon fils.
C'est vrai qu'il faut s'en
et là, il est plus en maternelle, il rentre en CP.
Impressionnant, je trouve.
Et c'était
de
super.
Maîtrise.
Non, c'était, je pense, oui, le meilleur truc de mes vacances, c'était ça, quoi.
Et jamais de ma vie, c'était viable pour moi ce genre de projet enfant.
Moi, j'ai
mes parents avec d'autres
mes
parents.
Mes parents faisaient ça.
Ah ouais.
Ouais, moi, toutes mes premières vacances et tout, c'était plein de parents, plein d'enfants, et ils partaient sans moi.
C'est ça.
Ah, mais c'est vous bien.
Partouzé,
sans ça. Moi, j'allais chasser des hérissons.
Ok, bah quelle chance alors. J'espère que tu n'as pas eu trop chaud. En tout cas, là, on se retrouve pour voir. Oh, en Bernard fait, Montel, je sais pas quoi.
Il prend des niveaux de podcast en podcast. En fait, à chaque fois qu'il finit une question, on dirait que ça repart dans les studios. Je sais pas pourquoi. J'espère que tu n'as pas eu trop chaud. Et on repart maintenant dans le village de Besquerette. Dans le
60 degrés à l'ombre là, ou je sais pas quoi. C'était quoi l'émission de merde?
T'es obligé de parler de météo en plus.
Ah ouais.
Ça, je m'en souviens.
Alors,
ça,
comment ça s'appelait? Avec elle s'est fait agresser par un lion.
Bah, c'est ça. Non, mais Marie-Ange Nardi qui se fait agresser par un lion. Non, mais... Je vois encore la griffe bloquée dans le bras de Marie-Ange Nardi. Traumatisme d'enfance.
35 degrés à l'ombre.
Horrible ça. Avec Vincent Perrault et son drag.
C'est vrai que tu vois le réchauffement climatique, c'était 35 degrés à l'ombre. Ils étaient genre maintenant déjà ouais bien, on était tranquille.
Et comment il s'appelait le
mec? On dit agressé par un lion.
Ah bah
je disais peut-être le mot attaqué quoi.
Ouais.
Agressé.
Non parce que
agressé, on dirait que t'as sifflé. Et puis là, il était un peu relou quoi.
Harcèlement moral de lion.
Il s'est fait harceler par un lion, c'est horrible quoi.
Il m'a fait un chaud froid permanent. Il m'a
dit, vas-y, caresse-moi. Ferme ta gueule maintenant.
T'es belle, mais t'as un peu de moustache là.
Marion Schnardi là. Tu sens pas très bon, mais vas-y, viens.
Oui, donc là on va faire retracer un peu ta vie, Sébastien.
Avec plaisir.
Donc on a demandé à GPD de nous faire ta carrière un peu en bullet point, à la manière peut-être de Fréquence Star, même si je vais tenter de faire Fabrice Drouel à tout moment.
Non, c'est Fabrice Drouel. Ça a été écrit dans cette.
Et après, on va voir petit twist, ok?
Ok.
Sébastien Chassagne mesure environ 1m80, avec une stature élancée et pèse aux alentours de 75 kg. Ses cheveux châtain clair encadrent un visage expressif, animé par des yeux marron-vert captivants. Son style vestimentaire aussi entre chic parisien et originalité bohème. Et son sourire, à la fois simple et énigmatique, irradie une chaleur sincère.
Je tiens à préciser que c'était une expérience personnelle, ça. C'est avec toute ta biographie, je le dis, comment tu l'imagines, du coup.
Bah, c'est pour
et je trouve que c'est, franchement, c'est plutôt pas mal, quoi.
Sébastien est un acteur et metteur en scène français reconnu. Né en 1983 ou 1984, il s'est formé à l'École supérieure d'art dramatique de Paris, l'ESAD. Avant de faire irruption sur la scène théâtrale, Sébastien a exercé divers petits boulots, dont celui de vendeur de crêpes ambulantes sur les bords de la Seine à Paris. Et oui. Où il affinait déjà son sens de la mise en scène en offrant à ses clients des performances spontanées tout en préparant leurs commandes. Ça, c'est très étonnant. C'est vrai que c'est un petit détail.
Ça m'a vraiment fait marrer, ça.
Vendeur de crêpes. Surtout que vendeur de crêpes, tu vois, j'aurais pas snipé les bords de Seine. Peut-être T'aurais tenté
surtout qu'en plus, à l'époque, c'était avant la fermeture des quais. Ouais. Donc, il y avait encore des bagnoles. Ouais. Il n'y avait que pendant les bouchons. En fait, c'était hyper compliqué. Donc, c'était limité à 50, je crois, à ce moment-là. Et il n'y avait que quand il y avait des bouchons que je faisais un petit chiffre. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Le reste du temps, c'est là que j'ai développé mon asthme. C'était pas si simple que ça. Mais au moins de petits ralentissements, c'est vrai que j'arrivais à me fendre d'un petit jonglage, d'une imitation. Voilà.
Est-ce que, en tant que je te sens bien slasher, multicasquette, est-ce que tu n'avais pas tenté la crème et aussi le nettoyage de pare-brise en même temps? Est-ce que c'était deux formules qui pouvaient être intéressantes?
Nettoyage avec la crêpe, je crois que c'est comme ça que ça se passait. J'ai un enregistrement, enfin j'ai une retranscription d'une de tes ventes de crêpes.
Ok, d'accord.
Ouais, je l'avais fait, je t'avais pas dit ça.
Comment c'est possible?
Bah, c'est...
C'est la magie de ChatGPT.
Ces crêpes ont l'air délicieuses. Tu te souviens de cette crêpe au Nutella que nous avions mangée en Bretagne?
Mesdames et messieurs, laissez-moi vous narrer l'épopée de la crêpe au Nutella, une histoire aussi vieille que le temps lui-même.
Il y a fort longtemps, au royaume des douceurs, un roi au palais d'or cherchait désespérément la perfection gustative, une quête qui le consumait.
Et ce roi...
Excusez-moi. Oui, j'ai bien vu ce que vous étiez en train de faire. J'ai pas fini de parler. Donc, excusez-moi, noble voyageur, mais quand une pièce de théâtre se joue, nous ne coupons point l'acteur en pleine tirade. Voilà, chacun son métier, s'il vous plaît. Laissez-moi faire le mien, je vous empêche pas de faire le vôtre. Prêtez simplement oreille et délectez-vous du récit. Ainsi, le roi envoya ses chevaliers les plus valeureux à la recherche de ce mets magique. Mais c'est au cœur des terres lointaines et mystérieuses que la sorcière Noisetella détenait le secret. Une pâte sombre, riche, dégoulinante d'onctuosité et de mystère.
Une sorcière pour du nu...
Chut, jeune demoiselle, patience. La sorcière Noisetella, gardienne du chocolat le plus fin et des noisettes les plus délicates, avait concocté ce délice. Les chevaliers, face à elle, étaient déchirés entre la convoitise et l'honneur. Mais le goût... Le goût surpassait leurs rêves les plus fous. Regardez avec les yeux. Et ce n'est qu'après une danse de mots, une bataille de volonté et une promesse d'éternité que Noisetella céda son trésor au roi. Et la crêpe au Nutella fut née.
Waouh, c'est une histoire fascinante. Merci de nous avoir embarqués dans cette épopée.
L'art, mes amis, est partout. Même dans une simple crêpe.
Retour. Ah ouais, donc du coup, en vrai... en fait, t'étais un peu... Laurent Deutsch, t'étais un conteur d'histoire aussi, c'est ça qui est fou. C'était ça qui était un petit peu gênant pour les touristes.
Non, mais surtout, moi, il a dû se ramasser mais tellement de thunasses, quoi, avec ça.
Tu penses?
Ah bah attends, tout le monde va aller voir... qui n'est pas chaud d'aller manger une crêpe et un conte, quoi.
Genre, non, mais ouais, je sais pas, sur les bords de Seine, ça dépend les bords de Seine, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de tout. Il y avait les gens qui allaient travailler le matin, choses comme ça. Mais tout le monde est content d'écouter une belle histoire avant de... Ouais, voilà, j'étais sur ce créneau, quoi, qui rappelait plein de choses aux gens, qui les, voilà,
puis,
un peu de chaleur.
On pense pas souvent aux enfants, et c'est vrai que bah, là, tu leur racontes des histoires. Ouais. La sorcière noise était là.
C'était un texte qu'on t'avait imposé, genre on t'avait donné plusieurs textes, ou c'est toi le matin qui composais des nouvelles histoires?
Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'avais rien. C'était que de l'impro, que des trucs machin. Et non, alors souvent, j'avais développé une technique un peu à la Zuel Suspect, c'est que je voyais des trucs derrière et je composais au fur et à mesure.
J'ai vu que t'avais pas mal utilisé Nutella du coup.
Oui, voilà. Ouais. Et typiquement, c'est parce que comme j'avais ma crêperie, j'avais du Nutella. Et donc, alors très souvent, quand j'avais la même chose devant les yeux, c'est vrai que les histoires se ressemblaient plus ou moins. Mais donc voilà là-dessus, puis noisatelle là, etc. Ouais. Une crêpe, j'avais des crêpes devant. Donc je composais comme ça avec ce que je vois. Tu vois là, je pourrais écrire une histoire sur Rémi, un abat-jour, un appartement, un micro. Tu vois, je sais pas, tu vois. Voilà, enfin, faut un contexte.
Ouais, t'as gardé ça encore. Ok, putain.
Ouais, ouais.
Très émouvant de cette belle archive, en tout cas. Mais après, les crêpes, bien sûr. Sa première percée majeure a été en 2010, lorsqu'il a joué dans la pièce Les Trublions de Marion Aubert. Cette même année, il s'est également essayé à la mise en scène en tant qu'assistant pour Manhattan Medea de Dia Lauer.
Dia Lauer. Exactement.
Je ne connaissais pas. Un autre moment phare de sa carrière à notre Sébastien fut sa participation au film d'animation Cul Fourmise, où il a prêté sa voix au personnage de Zoltar, charismatique guerrier fourmi. Sébastien a innové en utilisant une technique de déformation vocale appelée vibrovoix. Sa catchphrase du film: pas de graines, pas de guerre, est rapidement devenu culte. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de t-shirts.
Je sais que ça doit te saouler, on a déjà demandé des milliers de fois.
Mais... Ah, j'en ai fait des répondeurs avec ça. Hein. Punaise.
Tu pourrais nous faire pas de guerre, pas de graine. Non, pas de graine, pas de guerre avec la vibrovoix.
Bien sûr. Alors, normalement, la vibrovoix, bon, okay. Il y avait de fait un accessoire que j'ai pas là sous la main, mais.
Oui.
Bien sûr que je vais le faire, je m'en souviens, je l'ai fait tellement de fois. Bien sûr, tu sais, Fourmise lui-même, je l'ai vu plein de fois, évidemment.
Ouais, ouais.
Donc là, Sébastien, il est en train de poser ses doigts sur sa clé.
25 ans en arrière, quand même.
Tu es Zoltar, tu es Zoltar.
Pas de gun ! Pas de guerre !
Et là, ouais. On est mais tout ça, de suite projeté en enfance, quoi.
Non, mais tu sais, je me rappelle, je sais pas, sur MSN, souvent, il y avait des petits sons que tu pouvais envoyer. Bah, il y avait ça, ouais.
Ce qu'on va rappeler, quand même, c'est qu'en VO, c'était Arnold Schwarzenegger.
Ouais.
Comment on rentre dans les chaussures... Ouais.
D'une fourmi, déjà.
D'une fourmi. Et d'une fourmi de 2m10 de haut, donc... Ouais.
Bah, c'est pas si compliqué vu que on a à peu près le même parcours avec Arnold Schwarzenegger. Mmh. Donc, de fait, moi, c'est souvent un gars... Pour le doubler, d'ailleurs, j'ai fait sa voix plusieurs fois dans plusieurs films français après ça. Donc, c'était pas si compliqué que ça. Et puis, c'est vrai que lui, il a des origines autrichiennes. Mmh. Moi, j'ai fait allemand LV2. Enfin, il n'y avait pas non plus un travail de composition de fou à faire, à faire derrière, quoi. Il adore la muscu, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de roller quand j'étais. Voilà. Donc, il y a plusieurs comme ça ponts qui nous parlaient. Et après, pour les fourmis, c'est de l'observation principalement. Ouais. Donc, c'est vrai que j'avais regardé Microcosmos. Plus d'une centaine de fois.
Qui a été vachement décrié quand même par tous les amateurs de fourmise comme vraiment une
imitation
de fourmise.
Ah oui,
oui, complètement. A posteriori, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'on a reproché à Microcosmos qui était sorti avant de ressembler à fourmise qui était sorti après. C'était un très très mauvais procès d'intention d'ailleurs.
Tu sais que c'est impossible de trouver une bobine de Microcosmos maintenant à cause de fourmise.
Non, je l'ignorais. Tu m'apprends quelque chose.
Ça a été détruit par des fans.
Après, ce qui m'a saoulé, c'est vraiment dans Microcosmos aussi. C'est ce putain de bousier qui vit absolument que pour les caméras et qui prend vraiment son rôle trop à cœur et qui prend un peu le focus justement des fourmis là où Fourmise
il y a un bousier dans Fourmise
heureusement que non.
Non, mais dans Microcosmos, mais c'est le seul qui a eu une carrière derrière. Hein, tu remarques,
bousier, ouais.
Parce qu'il avait fait une apparition dans Un Indien dans la ville, je crois, si je dis pas d'annerie. Et après, on l'avait revu dans Fantôme avec chauffeur. Je sais pas si.
C'est plus en caméo. Hein. Ouais.
Et après, le virage de l'année 2000, enfin, lui-même s'est perdu, de toute façon.
Drogue.
Notamment, oui.
Disons qu'il poussait pas que de la bouse, quoi.
Ouais, non, mais je crois qu'il y a un petit. Sa dernière apparition, c'est dans le dernier Paul Thomas Anderson. Petit fun fact, il joue le serveur du diner.
C'est vrai.
Ça, c'est un petit truc, un petit fact.
Je me souviens d'une phrase.
Très tabzien, ça.
Une anecdote très tabzienne.
Ouais.
Il avait dit, je me rappelle, quand il avait accepté le rôle, il a dit, de toute façon, j'ai déjà passé ma vie à manger de la merde. Et
je suis assez prêt, quoi.
Où peut-on tomber plus bas quand on passe déjà sa vie à pousser sa merde?
Ouais, roule la merde.
Roule la merde.
Mais ouais, donc du coup, Fourmise, ouais. Non, mais c'est.
Et juste,
coup,
on avait déjà parlé du bousier dans un autre épisode ou pas?
Ah, je sais pas.
Parce que. Ouais, j'avais une réflexion
sur. Mais je sais pas si je l'ai pas coupé.
Ouais, mais c'est sûr que. Ah, super, merci.
De rien.
Parce que je me suis toujours dit que le bousier, tu sais, à chaque fois qu'un explorateur, enfin pas un explorateur, mais scientifique découvre un explorateur, moi j'ai vraiment une vision d'un enfant de 4 ans.
Regardez là-bas, oh, il pousse son caca.
Quand il nomme les insectes, par exemple, tu sais, comment ça s'appelle les oiseaux, non, c'est même pas les oiseaux, en plus, je trouve que c'est des papillons, les inséparables, je sais plus comment ils s'appellent, les inséparables, c'est un dans la peine, l'autre.
Inséparables, c'est les oiseaux.
C'est les oiseaux, c'est l'autre meurt, tu vois. T'appelles ça les inséparables,
exactement,
c'est super joli, t'as trouvé un joli mot, quoi. Les éphémères,
les éphémères,
c'est des papillons, du coup, qui.
C'est ce genre de petits papillons, je sais pas,
ils vivent un jour,
c'est un petit peu dégoûtant, ouais.
Et c'est joli.
Ça existe à l'état de larve pendant très longtemps,
ouais,
et
voilà.
C'est une fois que c'est. Après, c'est 24 heures.
À chaque fois, du coup, t'as un mot, tu vois, qui est cool pour décrire l'animal ou l'insecte. Et je me suis toujours dit pourquoi les bousiers, personne appelle ça un Sisyphe alors que c'est là, quoi. Genre, il passe sa vie à pousser sa boule sans jamais avoir d'autre chose à faire. Quand il l'amène dans son terrier, il va chercher une autre boule. Frère, juste en face de toi, quoi.
Depuis, Sébastien n'a cessé de faire ses preuves tant au cinéma qu'à la télévision, enchaînant les rôles dans des films comme L'Algorithme de Monte Carlo, Sage-Femme et encore Happy End, et bien d'autres. Sa versatilité lui a permis de se démarquer, faisant de lui l'un des acteurs français les plus en vue de sa génération. Donc c'est très drôle parce qu'effectivement, là, il y a...
C'est des très très bons exemples de films pour lesquels je suis très très connu.
Ouais.
Surtout Happy End, où j'ai une petite anecdote quand même sur Happy End, c'est que j'ai été coupé au tournage. Ce qui est vraiment rarissime.
Alors,
donc
okay.
C'est pour ça qu'il faut se lever vraiment de bonne heure pour me voir dans Happy End, parce que je suis dans le film, effectivement.
Oui.
Mais le jour où je suis arrivé, donc c'était à Douai, après ça a été à Bry-sur-Marne, mais à Douai, j'arrive et tout, ah Seb, t'es là, c'est super. J'étais avec Haneke, donc j'avais quand même passé deux essais de une heure. Il me semble même qu'il était là la deuxième fois. Non, il était là la deuxième fois où je l'ai vu. Donc un truc vraiment sérieux, machin. Et alors, pendant les essais, d'ailleurs, mon personnel avait un prénom. Et en arrivant le jour où je reçois la feuille de service, je vois que c'est Homme Buffet 2. Je dis, ah tiens, Homme Buffet 1, pardon, parce que Homme Buffet 2 faisait la gueule du coup. Et alors, Homme Buffet 1, je me dis, tiens, Homme Buffet, ok, bon, c'est marrant, il y avait un prénom avant. Et donc, ah, Seb, t'es là. Et donc, c'est la troisième assistante de mise en scène qui était adorable, qui dit, bon, c'est pas sûr qu'on tourne ta scène aujourd'hui. Et en fait, on n'a jamais tourné la scène pour laquelle j'avais été embauché. Et j'ai découvert après qu'en fait, sur ce film-là en particulier, Haneke avait laissé certaines pages de scénario à l'étape du séquencier, donc avec voilà ce qu'il y aura dans ma scène, mais je ne sais pas comment ça va se raconter. Et qu'en fait, on était toute une tripotée d'actrices et d'acteurs qui étions là au cas où il avait idée, il avait une inspiration, un truc, un machin. Mais j'avais quand même passé des essais et tout, machin, enfin, et tout, voilà. Donc c'est un très très bon exemple, celui-là. L'autre, c'est un court-métrage d'une collection Canal qui a été très très peu diffusé. Et Sage-Femme, idem, j'ai été coupé, mais uniquement au montage.
Ok, c'est bon.
Donc il me reste une toute petite, un petit bout. Mais c'est des très bons exemples.
On va faire première mondiale, les amis. On a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir la suite de ta vie, Sébastien. Donc on s'est arrêté en 2023, puisqu'on est en 2023, et là 2024, Sébastien, es-tu prêt ?
2024,
pour
oui.
Découvrir, est-ce que ça
c'est l'année de mes 39 ou de mes 40 ans ?
On sait pas trop.
On sait pas trop, c'est l'un ou l'autre.
Mais est-ce que t'es prêt à nous prendre la main dans cette expérience un petit peu bouleversante que tu vas vivre là ? T'es prêt à voir ton avenir, ton futur ? T'es à l'aise avec ça ?
Ah oui, complètement. Oui. Je pense que le futur, je pense qu'on est des êtres transdimensionnels. Donc
c'est vrai.
Pour moi, je suis le docteur Manhattan. Je pense que je vois un peu le futur, le passé. Je
tout
pense que tout
boucle,
existe.
Finalement. On
c'est
est
juste qu'il faut savoir le voir ou l'écouter, quoi.
C'est vrai. 2024, poussé par une envie de simplicité et de stabilité, Sébastien Chassaigne décide de quitter le monde des paillettes pour rejoindre la vie normale. Il se fait embaucher dans une entreprise de logistique spécialisée dans l'exportation de produits bio située en banlieue parisienne. Il occupe le poste de gestionnaire de données clients. Il s'installe dans un espace de travail partagé, un open space bruyant et coloré, avec des plantes vertes ici et là. Des collègues tapant frénétiquement sur leur clavier et le brouhaha incessant des discussions professionnelles et personnelles. Donc là, on a affaire vraiment à un changement de carrière assez fou. Donc là, 2024, donc justement, ces projets qui se terminent.
Est-ce que ça résonne dans quelque chose que t'as pensé déjà de vraiment tout arrêter pour aller bosser
dans la gestion,
dans la logistique?
Ouais, bien sûr. Déjà, banlieue parisienne, évidemment, ça me trouble. C'est qu'il en parle, puisqu'effectivement, c'est là d'où je viens et c'est là où je vais retourner certainement. Et puis, le bio, évidemment, c'est un milieu que je connais excessivement bien. Je connais hyper bien l'import, l'export,
bien
etc.
Sûr, ouais.
Le commerce, d'une manière générale, les maths, open space, tout ça, les plantes vertes, bien sûr, que ça me parle également.
Mais au-delà de ça, c'est étonnant quand même de quitter cette carrière de cinématographique. Donc, c'est quelque chose qui pointe dans ton cœur. Là, c'est une envie
c'est,
de réalité.
C'est une recherche d'utilité, surtout.
Ouais.
De quoi le monde a besoin ? Et je pense que le monde a besoin d'experts en logistique dans l'import-export de produits bio, par exemple.
Quelle humilité !
Plus que d'acteurs.
Écoute, je vais peut-être être choquant là-dessus, mais je pense qu'il y a assez de films qui ont été faits et qu'on les a pas tous vus et qu'on peut juste faire une petite pause, au moins d'un an, essayer de rattraper tous les films qu'on a pas vus. Et il y en a énormément.
Déjà. De toute façon, il y a la grève là.
De toute façon, il y a la grève, on a que ça à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a à rattraper, je crois.
Donc, mais gestionnaire de données clients, ça,
oui,
c'est
vrai. Oui, c'est vrai. Oui, pardon.
C'est plus ça que littéralement le produit.
C'est vrai que la gestion de données, c'est. Oui, bien sûr.
C'est presque managérial. Mais bon, 2024, c'est ça. Mais 2025, apparemment, Sébastien s'adapte à cette nouvelle routine. Il développe sa routine. Un café du distributeur à 10h, une pause déjeuner avec quelques collègues au parc voisin et des discussions après le travail autour d'une bière au pub local. Il apprend à gérer un CRM, à respecter les délais et interagir avec une équipe. Donc ça, c'est vraiment de guider les gens, de
prendre la main altruiste. Moi, j'ai toujours aimé coacher. Ouais, j'ai toujours aimé manager. Et en plus, comme je viens du théâtre, j'ai plein d'outils pour faire des beaux exercices de team building. Je sais pas, il y a des trucs tout bêtes, quoi, mais on peut se lancer une balle de tennis, dire nos prénoms. Je sais pas, je vous dis des trucs comme ça, voilà quoi. Je sais que
exercice de respiration, rire, rigologie.
Exercice de respiration, un peu, ouais, bien sûr, yoga du rire. On appelle ça le yoga du rire, bien sûr.
Étonné ou pas alors d'ailleurs par cette quand même une adaptation en un an.
Un an, ouais, déjà,
qui semble être.
Moi, je viens de là. Mon père, il était dans le consulting et le management, donc il écrivait des trucs de formation et tout. Et tu vois, ça m'étonne pas non plus de faire
c'est ce que faisait mon père. Ouais. Il a écrit des bouquins là-dessus, donc je pense que je récupère l'héritage familial là-dessus. Ouais. Donc je travaille en rien qui je suis, génétiquement même.
Et satisfait alors du coup de ces prédictions pour le moment ?
Hyper content, ouais. Hyper content. Parce que ça précise pas la banlieue parisienne, mais j'espère que c'est du côté de plaisir, ouais. Tout ça, où j'ai passé un peu de temps vers Villepreux, tout ça.
Ah, Villepreux, j'ai travaillé à plaisir pendant des années.
Ah, les clés sous bois, tout ouais, ça, tu connais.
Ça porte si mal son nom.
Bon, ouais.
Mon cousin habitait à Villepreux, il allait au skatepark.
Allez,
Villepreux, c'était incroyable ça.
Ah ouais, voilà.
Ok, d'accord. Et donc, ouais, donc, balade dans le parc voisin avec les collègues. Donc, c'est beau. Déjà, un mec vraiment le cœur sur la main, et t'es là socialement parlant, t'es là, c'est beau. Mais en mai 2025, suite à une vague de licenciements, il ressent une première fois la précarité de la vie salariée. Malgré cela, il est épargné, mais sa charge de travail augmente. Sébastien commence à ressentir les premières douleurs au dos et passe de longues heures à son bureau. Donc là, ouais, vague de licenciements, là, c'est le grand capital qui parle, là, c'est l'aliénation du travail, là, c'est dur les images. Là.
Grand capital, enfin, pardon de faire cette petite parenthèse, mais il y a... C'est les gens de gauche, vous êtes marrants, vous proposez rien. Enfin, je veux dire, moi, je comprends. Il y a de l'embauche. Alors là, effectivement, c'est le contraire
c'est
de l'embauche.
Un peu l'inverse, ouais.
Je sais, mais
le mot est vague de
licenciement. Pour licencier, écoute, laissez-moi finir ma phrase. Pour licencier, il faut embaucher. D'accord. Pour licencier, il faut embaucher. Pour embaucher, il faut licencier. À un moment donné, d'accord. Donc, enfin, je veux dire. Vous êtes là à penser que tout se fait sans argent, mais proposez des trucs.
Mais okay. Vous pensez que pour naître, il faut mourir, monsieur ?
Je pense que pour mourir, il faut naître également, oui, bien sûr.
Je vous vois juste inverser les mots, putain.
donc voilà, donc effectivement, problème de dos, oui, c'est sûr, licencié. Je vais pas vous cacher, ça ne fait pas plaisir.
Oui,
voilà.
Faut bien le faire à un moment.
Et mais évidemment.
Appel d'air.
Enfin, vous savez combien de personnes on embauche dans cette entreprise ? Vous savez combien de personnes vous, alors
des
combien
vagues.
Vous embauchez ? Des
vagues. Parce que on parle carrément au Sébastien de 2025.
Mais c'est... Là, il pré-shot magnifique, quoi.
Ouais, gros pré-shot, quoi.
Donc, proposer quelque chose, proposer okay. Un système qui fonctionne, qui permette de cotiser, qui permette de. Et voilà, et une fois que vous aurez un nouveau monde à nous proposer, ben on ira, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux.
Oui, et la retraite à 64 ans, monsieur Chassagne, nous en pensez quoi ?
C'est une aberration. De nos jours, alors là, on est en 2025, donc l'espérance de vie, elle est de 99 ans.
Voilà.
D'accord ? Pour tout le monde. On ne va pas s'arrêter de bosser à 64 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire en plus ? Qu'est-ce qu'on va faire ?
Okay, des licenciements, mais voilà, ils ont embauché un masseur pour le dos. C'est déjà ça,
oui,
un happiness,
voilà,
happiness manager de dos.
Boulot, et puis, voilà. et puis le ruissellement, c'est aussi aller au pub. Le ruissellement, c'est aussi aller faire des plénières en Espagne. C'est bah tout ouais. Ça, quoi. Bien sûr qu'il y a une vraie économie. Ça grouille de richesse, en fait, en vérité.
Très, 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 très inspirant ce que tu nous dis là, mais... Malgré la monotonie apparente de sa vie, Sébastien trouve un certain bonheur dans les petites choses. La camaraderie avec ses collègues, le plaisir de terminer un projet, les petits moments de détente pendant les pauses café. Il organise même une soirée karaoké avec ses collègues où il fait sensation avec sa voix. Ok, donc un amour pour le karaoké, donc t'arrives... 2026, il y a toujours une espèce de connivence toujours avec tes collègues. Mais est-ce que c'est parce que c'est des nouveaux ?
Avec ceux qui restent tous les nouveaux,
ouais, c'est
bien
sûr.
Est-ce que t'as connu ça avant ta carrière d'acteur ? T'as eu du petit boulot
de cet acabit ?
Ouais.
J'ai été c'est des petits boulots, tu vois, c'est des trucs de l'été. Alors non, c'est pas vrai, j'ai été concierge pendant un bon bout de temps. J'étais remplaçant de concierge. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de collègues quand t'es remplaçant de concierge à Paris, donc je faisais la tournée des trucs. Dès que les concierges partaient en vacances, en fait, je faisais partie d'un truc qui appelait les concierges.
T'étais pas dans le même immeuble pendant
un alors, il y en a
temps.
Certains où je suis resté longtemps, oui.
Ah ouais.
Et
c'est quoi la vie
Place Vendôme,
le
ouais, j'en ai fait un Place Vendôme chez Bulgarie, ça s'appelait. Il y avait la petite fille de Picasso au dernier étage, je sais plus quoi d'autre dedans. J'étais aussi dans le 13e, alors ça c'était génial, avec un mec, c'était le rédac chef, l'ancien rédac chef de Pif Gadget.
Oh.
Et donc un ancien
encore
coco,
une gauchiasse, ça,
encore
voilà,
une
camarade qui s'est fait
oui avec des gadgets en plastique très polluants. Donc là aussi on note quand même un énorme dysfonctionnement dans le discours de la
parce
gauche.
Qu'il faut savoir que les petits poissoteurs, bah, il fallait faire venir du Mexique, hein. Et quoi qu'il ait payé combien le poissoteur. On adore. Attends, vas-y, raconte un peu le.
Donc,
de...
Non, mais non, attends, je fais la petite liste des trucs que j'ai pu faire. Non, que j'ai j'étais agent de sécurité aussi.
Oh. Mais attends, alors, attends, juste sur concierge. C'est vraiment ce que j'ai vraiment. Je me pose des questions sur ça. Parce
sur quoi, sur concierge, agent de sécurité ou...
Non, concierge, le mat. Enfin, t'avais une journée qui finissait à quelle heure ? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que les concierges, honnêtement, vers 8h30, 9h, si tu te démerdes bien, t'as fini.
Alors, oui, c'est vrai, sauf que t'es debout. Parce que, alors, il y a des loges dans lesquelles tu ne dors pas et d'autres dans lesquelles tu dors. Mmh. Parce que parfois, comme c'était, je remplaçais des concierges, parfois c'était leur appartement, ils n'avaient pas envie de me filer les clés. Donc, en revanche, t'es debout à 3h du mat pour cleaner la cage. Pour 3-4 heures. Parce que quand j'étais. Alors, je pense à celui-là en particulier, puisque comme j'étais quand j'étais à Place Vendôme, moi j'habitais, je ne sais plus où, mais très loin de la Place Vendôme. Et le fait est que donc, j'allais en vélo à Place Vendôme pour sortir les poubelles, les trucs, les machins. Donc, en fait, oui, tu peux avoir fini très tôt, mais tu dois quand même être là pour la réception des colis. Enfin, tu vois.
Ouais, ça m'a l'air d'être un peu incroyable.
Effectivement, il y en a qui arrivent à trouver des plans quand c'est leur appart, à faire les jeux vidéo. Et d'ailleurs, le mec que je remplaçais à Place Vendôme, c'était un mec passionnant, un étudiant en musicologie. Et qui avait plein de bouquins de trucs, il y avait des bouquins de sociaux chez lui et tout, il avait plein de DVD. Et c'est vrai qu'entre deux réceptions de colis, lavage ou distribution de courrier ou poubelle, j'avais la chance d'avoir accès à sa bibliothèque. Mais sinon, le reste du temps, c'est quand même de beaucoup d'attentes, de trucs, de machins.
Incroyable.
Mais tu peux avoir fini ta journée très tôt, oui, ça dépend. Après, ça dépend de comment tu es payé par le syndic, ça dépend de ton contrat, ça dépend de plein de choses.
Mais t'imagines concierge avant Amazon et tout ça, là, avant qu'il y ait les colis, mm-hmm. Genre, tu branlais littéralement rien.
Le ménage d'une cage d'escalier, quel que soit. Enfin, tu vois, parce que c'est ça aussi que tu peux faire.
Moi, mon concierge, je fais pas le ménage.
Ah oui, alors moi, sur certaines missions, t'as le nettoyage.
Ouais.
Et putain, et si, et je me suis tapé une barre, enfin, une barre d'immeuble à Levallois-Perret. Pardon. Et mais qui était pas une barre de logements sociaux, qui était une barre d'immeuble, genre avec des pas sociaux, quoi. Et je sais. Et la distribution du courrier, quand t'as.
Ah,
putain,
ouais,
mais
ouais.
Je sais plus combien de personnes il y avait, mais c'est un truc hyper long. Et si tu te plantes entre Monsieur Lopez et Monsieur Loez, eh ben tu t'en prends plein la gueule. Enfin, tu vois, il y a quand même des. C'est pas un métier si cool que ça, quoi. Ça dépend des immeubles, en fait, je pense.
Je vais recommander un podcast, parce que j'en fais un par épisode. Je recommande Première Loge de Mary Royer, qui raconte son premier job, justement, où elle était remplacée gardienne dans une loge.
Ah, mais on a fait le même truc. Voilà. Ça se trouve, c'était avec le même gars qui embauchait plein de gens. Bah,
c'était donc, c'est 4 épisodes sur Arte Radio, ça s'appelle Première Loge de Mary Royer, qu'on embrasse.
Je vais l'écouter.
Allez. Juste le videur, c'était sur quoi?
Agent de sécurité, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai rarement pris des balles déjà. J'étais sur des espaces quand même assez safe.
Ouais.
J'étais chez Bouygues Télécom à Vélizy, Villacoublay.
Ok.
Il y avait une grande entrée. J'étais dans une grande tour EDF aussi où je me suis fait embrouiller parce qu'une fois, à un moment donné, je m'étais assis et le gars m'avait dit justement. Et si un mec qui rentre avec une mitraillette, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais dit, je sais pas du tout. Je pense que je décède. Voilà, mais je sais pas, le mec imaginait que si j'étais debout, le gars allait rentrer avec sa mitraillette vers l'or. Oh, il est debout.
Il m'a bien feinté.
Tu m'avais pourtant dit qu'il était assis.
On annule.
Il y a vraiment plein de gars qui sortent qui étaient tous de mèche en fait. C'était tous, ils attendaient que ça soit.
Et pareil, métier hyper ingrat, agent de sécurité, hyper ingrat, très franchement.
Mais on te verra pas à l'UFC, quoi. Enfin, tu n'as pas de mixed martial art.
Non, et puis surtout les mecs un peu gaulés ou qui savent se battre, on va les foutre sur des endroits à risque. Tu vois, je te dis vraiment, on foutait chez Bouygues Télécom pour faire badger des gens. Enfin, tu vois, il n'y avait pas le droit de fumer.
Bouygues Télécom, ça peut s'embrouiller quand même.
Alors, mais ça s'embrouillait, mais sauf que j'étais face à des connards qui fumaient dans les bureaux. Tu disais, on n'a pas le droit de fumer, et ils recrachaient la fumée à la gueule. Qu'est-ce que tu fais, tu vois?
Oh, mais alors, on peut continuer à fumer, mais alors, finissez.
Gars qui badgeaient pas, tu vois, qui me regardaient droit dans les yeux, qui badgeaient pas, qui faisaient un truc, tu vois, de machin qui passait par-dessus le truc. Enfin, c'était que des.
Putain, c'est vraiment un level de filouterie. Débile. Incroyable.
Oh, débile.
Je sais pas badger, cornichon. Bon, du coup, là.
Mais pas trop de team building, du coup.
Ouais, là.
J'ai toujours mal entendu avec les collègues, donc j'étais ravi de prendre un peu les rênes de l'ambiance.
Bah, c'est ça.
Voilà, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien. Ah, j'aimais bien le Japon, tu vois, et donc le karaoké, pour moi, enfin, je sais pas si vous connaissez le karaoké, enfin, je sais pas si c'est arrivé jusqu'ici, parce qu'au Japon, tout le monde
non,
en parle.
Non, je crois pas.
Ouais. En 2026, ça arrivera en France, je pense. Le principe, c'est de chanter, voilà, et tout. Et au Japon, ça fait ses preuves. C'est ça qui est cool au Japon, parce que tu travailles du lundi au samedi, et le samedi, tu passes ta soirée avec ton patron. C'est génial.
Il t'oblige reste à boire, voilà. Ouais, c'est génial.
Il t'oblige à. Ouais, tu es obligé de faire la fête, parce que sinon, bah, c'est pas cool.
Attends.
Et moi, j'aime bien être avec des gens cool, quoi. Après, il reste le dimanche, ça va. Hein.
Oui. Chanson maintenant tout de suite.
William Scheller.
Ok.
Je veux être un homme heureux.
Un homme heureux.
Ah non, pas du tout. Okay. Non, les filles de l'aurore.
Les filles de l'aurore. De Laurent ou de l'aurore.
Les filles de Laurent.
La fille de Laurent. Ok, d'accord, bien sûr.
Attends, comment ça fait? Ça fait parce qu'il faut le contexte et puis c'est dans le futur, donc j'ai pas encore appris par cœur cette chanson.
Parce
mais dans le futur, j'aurai appris par cœur.
En 2025.
Les filles. Les filles de. Attends. Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver.
Elles ont à vendre de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dansez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aurore. Quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps.
Ouais, il m'a fallu un peu me réchauffer. Ouais. J'ai le temps de la retrouver. Putain,
ce qui est beau de dire que là, on pensait que 2025, ce sera encore les Joules, les NAPS et tout ça, et Aya Nakamura. Et en fait, William Scheller est toujours là. Ça fait
je vais
plaisir,
dire, voilà, il reste, il y a Scheller, il y a Sardou, il y a Lama qui a fait un retour incroyable.
Putain, mais c'est marrant comme t'as vraiment pris un virage à droite. C'est impressionnant. Ouais. Quoi,
Bah, c'est en vieillissant, tu sais, quand t'as des enfants, des trucs, des machins, c'est plus toi, quoi, c'est eux. Et quand tu réfléchis pour les autres, et bah, tu te rends compte que le capitaliste n'a pas que des mauvais côtés en vérité.
C'est un capitalisme maîtrisé.
Et 2027, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise connaît des difficultés économiques et est reprise par un grand groupe. L'ambiance se détériore, le stress augmente. Sébastien pense à changer de travail mais réalise qu'à son âge et sans expérience récente dans le show business, les options sont limitées. Ah bah ça, classique.
Ouais.
2029. Après 5 ans passés dans cette entreprise, Sébastien sent qu'il est temps pour lui de faire un nouveau changement. Avec ses économies, il décide d'ouvrir une petite librairie théâtre dans le Marais à Paris, mélangeant sa passion pour la littérature et le théâtre. Le lieu devient un espace d'échange culturel et artistique pour les habitants du quartier. Donc voilà, on repart sur l'artistique, c'est fou.
Mais ouais, c'est bah ouais, ouais, bah la littérature. Oui, non, alors c'est vrai que le bah après il y a théâtre et théâtre, tu sais. Ouais. Donc c'est une librairie que j'ai appelée le Brigadier parce que le Brigadier donc c'est le nom du bâton qui donne les coups bien au début sûr. Du théâtre parce que moi je fais que du théâtre avec un rideau et des bâtons.
Ouais.
Et puis c'est aussi évidemment le nom de voilà des gens qui nous protègent et qu'on salue évidemment au passage. Donc c'était un petit clin d'œil, surtout qu'à ce moment-là, il faut savoir que le Marais en 2029 est complètement différent de maintenant.
Gentrifié mais bizarrement.
Très gentrifié voilà. Et c'est marrant parce que vous savez, il y avait l'effet des Parisiens qui allaient un peu sur le littoral et tout. Et ben c'est toute la boule qui est revenue dans le Marais. Voilà.
Parle-nous peut-être du côté librairie du coup.
Le côté librairie, donc c'est un endroit où il y a des livres. Ouais, voilà, il y en a beaucoup de livres parce que c'est vrai que à ce moment-là, en plus, donc moi j'ai eu je me suis remarié, j'ai eu des enfants avec une femme que j'adore et qui a 28 ans de moins que moi. C'est on a eu 4 enfants ensemble. Et c'est vrai que moi, je trouve que les gamins, ils sont quand même un peu trop sur leur portable. Et si on ouvrait un bouquin de temps en temps. Voilà. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas les portables. Et avec quoi on se gargarisait? Un livre de poche. tu vois, une petite. Tu vois, les contes de la rue Mouffetard, des trucs comme ça. Tu vois, un petit Daniel Pénac. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça pour les enfants, juste pour dire, hé, les gars, si on décrochait un peu du
donc
téléphone.
Donc, c'est plus des livres pour enfants, c'est à la fois.
Il y a un peu de tout. Il y a du livre pour enfants et du livre pour adultes. Ça bouffe à tous les râteliers, en vérité.
Au brigadier.
Au bon brigadier, voilà. Et voilà. Et tous les samedis, il y a un coup de rouge offert pour les habitants du quartier. Voilà,
alors, qu'est-ce que. Alors,
rouge rideau.
Est-ce que tu appellerais le brigadier comme une librairie ou un lieu wok?
Oui, là, il est
Et comment dire?
Est-ce que c'est l'utilisation d'un anglicisme qui te...
Alors ça me fait froid dans
le brigadier, parce que c'est forcément un homme, le brigadier.
Oui, non, mais je vois très bien sur quel terrain vous voulez m'emmener. Le fait est qu'il faut rester accessible et qu'on est, au plus simple, c'est, voilà, c'est ça qui se
donc
fait.
Pour rester accessible, c'est pour un nombre de personnes vraiment très restreint.
Oui, voilà. Mais ceux qui savent lire déjà, bon voilà, voilà, bon, enfin, sur la question du wokisme, comment dire, c'était une mode, j'avais dans les, c'était comme la tectonique quoi.
C'est ça, ouais.
Et à un moment donné, je crois vers la fin de l'année 2026, tout le monde en a eu marre et il y a eu tout le monde s'est retrouvé autour du fait qu'on arrêtait avec le wokisme, qu'on arrêtait avec le fait d'accepter tout le monde, d'écouter
les pronoms
tout le monde,
et tout,
machin. Tout ça, c'était un effet de mode, quoi.
Bien sûr.
Donc ça reviendra, évidemment, comme toutes les modes. Mais non, là, on est...
Sauf la tectonique.
Je pense que la tectonique va revenir.
Oh oui.
Oh merde.
Ça, c'est sûr et certain. Oh, tu sais que l'Eurodance, personne mettait un bifton là-dessus fin 90.
Ouais, j'avoue.
Et ça revient avec des trucs super d'ailleurs. Donc voilà, une librairie pour les gens qui savent lire avec des vraies valeurs.
Ok. Et valeurs.
Voilà.
Et 2030. Sébastien, mais il est tranquille entre la gestion de sa librairie et les soirées théâtre.
Ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus au fait. Hein, entre temps.
Et les soirées théâtre qu'il organise chaque week-end, il trouve finalement l'équilibre entre sa passion artistique et le désir d'une vie plus ordinaire. 2038, à l'âge de 50...
Attends, là, ça, c'est un moment grand. Là, c'est quand même... parce qu'on fait des blagues et tout, mais... 2038, c'est le moment. Ouais, c'est le moment, quoi.
Ça, c'est... attention.
54 ans. Ou 55.
À l'âge de 54 ans, après une journée pluvieuse typique de Paris, Sébastien décide de fermer plutôt sa librairie théâtre. Il se promène dans les ruelles sinueuses du Marais, profitant du calme après la pluie. Absorbé par la beauté des pavés mouillés reflétant la lumière des réverbères, il ne remarque pas une échelle mal placée par un artisan travaillant sur une devanture de magasin. Tout en marchant, il heurte l'échelle, qui bascule et fait tomber un pot de peinture blanche suspendu en haut. Le pot s'écrase à quelques centimètres de lui, le couvrant entièrement de peinture. Si le choc n'a pas été mortel, Sébastien, surpris et désorienté, trébuche en arrière et tombe dans une flaque d'eau, la tête la première. Ironiquement, malgré toutes ses années sur scène et ses performances mémorables, c'est ce moment, capturé accidentellement par un photographe de rue, qui devient une des images les plus iconiques de Paris. Un homme tout de blanc vêtu, allongé dans une flaque, avec la lumière des réverbères jouant sur la surface de l'eau. Une image à la fois tragique et poétique qui rappelle que la vie, aussi banale ou extraordinaire soit-elle, est toujours imprévisible. Donc là...
Ciao l'artiste.
Henri Cartier-Bresson, les douaneaux et tout ça, le baiser de l'hôtel de vie, de la pure merde.
Que des mises en scène en plus.
Et là toi, une icône dans sur des t-shirts.
Et c'est magnifique de se dire que c'est un retour à l'art.
Et un retour au gag surtout.
Un retour au gag. Tu parlais de Buster Keaton tout à l'heure, ouais, c'est une très belle façon de partir. Keatonesque.
Est-ce que là je comprends que là, c'est
54
un peu...
ans, quoi. Je pouvais encore bosser pendant 40 ans.
ça te fait quoi, là? Ça te fait quoi, là, d'imaginer ça? C'est bouleversant, là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là?
Je pense qu'à partir du moment où je refais toute ma vie, il y a quand même une petite période que je regrette. C'est celle où... c'est celle où je me pervertis, où je me droitise, en fait. Ouais. J'ai un regret, en vérité.
Putain, c'était il y a 5 minutes.
Ouais, je me refais tout le truc et ça m'a rien apporté en fait. Ça m'a apporté que des malheurs, des ruptures et si c'est les autres qui avaient raison. Et là, tu vois, pendant que j'ai cette prise de conscience, j'espère que les t-shirts seront fabriqués de manière éco-responsable, de préférence en circuit court.
Bien sûr.
J'espère que le droit du travail sera respecté par rapport à ça. J'espère que mon image ne sera pas récupérée dans tous les sens pour faire des agendas. J'espère que je ne vais pas devenir aussi un étendard de la droite. Parce que je pense que c'est vraiment un des pires trucs qui puissent nous arriver, c'est de devenir un étendard de la droite.
Le créateur du brigadier.
Ouais, mais tu vois, c'était pas moi en fait.
Ouais.
En vrai, ce que j'exprimais, c'était la frustration de ne plus être artiste, de ne pas en avoir été, tu vois.
Ouais.
Parce qu'au final, on dit Yannick avec Raphaël Quenard, on dit pas Yannick avec Sébastien Chassagne. Enfin, si on dit Pio Marmaille. Et Sébastien Chassagne, on le cite parce qu'on le connaît, on l'a vu dans un truc avec Léopold Le Marchand, pas le meilleur de ses sketchs.
Une affection, c'est tout.
Oui, on l'a entendu deux fois dans le floodcast. Gaston Lagaffe, on l'a même pas reconnu, il avait pas ses lunettes. On l'a vu un peu avec OGG, donc oui, on en a entendu parler. Oui. Mais.
Eh ben, écoute, c'est là que ta vie se termine.
Ok, ça va.
Après, à toi maintenant, tu as les clés. En ayant connaissance de ça, d'essayer de changer, d'essayer d'éviter cette droitisation, d'essayer de rester solide sur tes appuis, de croire fort à Gaston Lagaffe 2. Et tu seras lancé, mon pote.
Technosolutions, là où la technologie embrasse l'humain. Écoutons un de nos collaborateurs les plus atypiques.
Je m'appelle Sébastien Chassagne. Autrefois sous les projecteurs, je suis aujourd'hui chez Technosolutions. Ici, j'ai cherché un refuge, un endroit pour échapper au tumulte de la célébrité.
Oh Sébastien, mais ici c'est fantastique! Tu as vu les nouvelles machines à café et cette interface utilisateur révolutionnaire!
Oui, c'est différent en effet. Mais parfois, quand je traite ces dossiers, je ressens un écho du théâtre dans le silence de l'open space, une ombre de ce que j'étais, le kagemusha de ce que j'ai perdu.
Oh, mais tu rigoles, ici c'est le futur, oh ! Et puis avec les nouveaux stylos ergonomiques, je n'ai plus mal au poignet, c'est pas génial ça ?
C'est certain, oui. La simplicité a son charme. Mais chaque clic, chaque sonnerie me rappelle des applaudissements qui se sont tus.
Chez Technosolutions, chaque voix compte, chaque histoire résonne. Parce que derrière chaque écran, il y a une âme.
Tu nous emmerdes, toi.
Putain, mais GPT, il a vraiment... Il est poète, quoi, aujourd'hui. C'est n'importe quoi, quoi. Alors, c'est le courrier des lecteurs et lectrices des lecteuris. Nous avons un message de Rémi. Rémi, fidèle auditeur de Pardon GPT, qui nous dit « Bonjour, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Je vous suis assidûment car vos conseils de vie aux autres auditeurs de ce podcast m'ont littéralement sauvé la vie. Je vous écris aujourd'hui car j'aimerais avoir votre avis pour éventuellement me sauver la vie à nouveau. »
Éventuellement.
Éventuellement.
Et à nouveau.
La pression est là.
Ça a l'air d'être une vie difficile. Rémi.
Je cherche le nom d'une chanson que je n'ai pas réussi à chasamer sur le moment. Et aujourd'hui, ma vie se résume à chanter à qui veut bien l'entendre l'air de la chanson en priant pour qu'il ou elle puisse me donner le titre de ladite chanson. J'ai la sensation que cette chanson possède dorénavant mon esprit, tant elle est belle. Mais aujourd'hui, après ces 3 années dans la rue à chanter cette chanson, je ne suis même plus sûr de chanter la version originale. Peut-être ai-je même créé un remix dans cette chanson sans le vouloir ? J'aimerais avoir votre avis plein de sagesse pour passer à autre chose ou trouver une solution à ce problème. Pierre et Rémi, le funky boy étant féru de musicalité en tout genre, peut-être saurez-vous apporter des solutions à mon problème, bien cordialement, un autre Rémi. Donc là, c'est
il
vrai
a
que...
Pas la... Il n'y a pas la...
Donc là, Rémi, éventuellement, ça aurait été bien de nous faire un rec pour nous aider déjà.
Alors moi, j'ai un peu le même problème. Alors peut-être que par un coup du hasard, ce sera la même chanson. Okay. J'ai vraiment une chanson dans la tête que je ne retrouve pas.
Okay,
toi, je sais que tu es un peu un...
Ah, lui est bon.
Ouais, ouais. Zico,
une discothèque. Ouais. L'endroit où on range les CD, pas l'endroit où on range les disques, ouais. Même. Et je peux te faire un extrait.
Allez, on essaye.
Comme la vieille pub de la Fnac là. C'est un truc que j'entendais il y a 30 ans quoi, vraiment. Et ça faisait quelque chose. Under the red light. Et là, c'était un truc un peu house.
Ah oui, c'est ça. Parce que là, c'est la même tessiture un peu que...
Non.
Point de limite.
Ah, je pensais Cile. Je croyais que d'ailleurs Cile.
Moi, ça me dit vraiment quelque chose en plus ce que tu faisais.
Ah, ça dit quelque chose. J'arrive pas à retrouver.
Moi aussi.
Under the red light. Ça fait, pour moi, il y a un truc de musique un peu qui était utilisé dans les jingle télé, quoi. Un peu de télé-réalité, un truc comme ça. Ça peut pas être.
C'était antérieur. C'est honnêtement antérieur. Pour moi, c'est fin 80.
Même Love Story, un truc comme ça ?
Non, ça a au moins 10 ans de moins, ce truc-là.
En tout cas, ça sonne cette année.
Je pense que c'est un truc que j'avais sur une compile de station-service.
Et le Under the Red Light, c'est une
projection. C'est peut-être une projection.
Non. Ah, ouais, c'est très Eurodance, effectivement.
Ouais, alors, oui, mais c'est même un peu house dans mon... Ouais. C'est pour ça que je le situe un peu au début de
Alors, Eurodance. Comment tu mettrais le kick derrière ? C'était un...
un peu plus lent. Entre les deux. Entre les deux. C'est ça.
Ok, bon, moi je peux faire ça, tu peux faire la patte. On va le réenregistrer en live.
Du coup, nos auditeurs.
Tu imagines Rémi léché lui, genre peut-être nous aider.
Peut-être, et peut-être que c'est la même chanson dont Rémi parlait avec un peu de chance.
Et donc, du coup,
parfois il y a des miracles.
Tu es à peu près sûr de Under the Red Light ?
À peu près, ouais. Mais c'est peut-être pas Under the Red Light. Et je vous dis, c'est un truc très vieux. J'avais demandé à des copains de la radio de Tsugi. Ouais. On salue, bien sûr, Antoine Dabrowski et son émission Place des Fêtes. Et j'avais une chronique là-bas qui s'appelait L'amour du Stiff. Attendez, j'adorais ce truc-là. Je prépare un spectacle là-dessus, d'ailleurs, sur mes chroniques de banlieue francilienne.
Trop bien.
Et bref, je sais plus pourquoi. Oui, j'avais demandé à Antoine Dabrowski, qui est vraiment aussi une discothèque. Non.
Est-ce qu'on a trouvé, Rémi ?
En tout cas, ça cherche.
Ah. Non, c'est mystérieux, ou alors peut-être que c'est un banger à sortir. Hein.
On a dit que c'était ça, mais. Lower the curtain down on
right. I got no time.
Vraiment pas.
Mais ça peut être.
Arrête-moi cette merde. Je déteste ça.
Et t'en as parlé à Adrien Méniel ?
Non, j'en ai pas
parlé
derrière.
Parce que c'est un peu sa vibe de techno, un peu house.
Peut-être, il connaîtrait, ouais. Ouais.
Tu lui fais un petit vocal, ouais, excuse-moi, est-ce que ça dit quelque chose?
Alors, on fait beaucoup ça avec ma petite sœur.
Ok.
On se sert de cerveau mutuel, et régulièrement, avec des trucs très spécifiques, elle arrive à retrouver. Genre, par exemple, est-ce que tu vois ce que c'est la musique qui est triste avec des violons et dans le film il y a de la drogue.
Ok, d'accord. Rémi, toi, t'as des trucs qui te hantent? T'as des conseils?
Non, par contre, j'ai la chanson This is the Rhythm of the Night dans la tête depuis 30 ans.
Ok. C'est que ça.
Elle est bien quand même.
Moi, c'est Julien Clerc, ma préférence.
Alors, celle-là, c'est juste qu'il faut absolument pas. Voilà, là, il faut pas en parler. Fini, parce que sinon, elle est dans la
et
tête.
Et Belinda.
Ma préférence.
Ah oui. Non, il faut pas.
Et ça, c'est un gimmick. C'est vraiment, c'est un presque. Je pense qu'on est sur un toc réel. Tu sais, c'est comme moi, je dis toujours hop là, tout le temps, hop là.
C'est toi qui es alsacien, ça.
Bien sûr, Alsace et les crêpes. Mais j'ai pas de conseils, effectivement. Moi, il faut que ça sorte, hélas. Donc, Julien Clerc, moi, je le dis, Rémi. J'espère qu'on va trouver de l'aide. Sinon, envoie-nous un vocal et peut-être qu'on pourra.
Ouais, il faut absolument envoyer des morceaux. Voilà, quoi. Ça serait trop bien qu'on trouve.
C'est 100% commu. N'hésitez pas à créer un Discord, aller sur le Nerdshoot, pardon, GPT. Parler entre vous, glisser dans les DM, essayer d'établir un maximum de relations entre vous, que ça devienne gênant et que vous soyez la pire communauté. Merci à vous. C'est une blague, bien évidemment. Est-ce qu'on a un autre message, les amis? On fait quoi? Tu veux faire, Rémi? Tu en fais une? Tu fais Clara, Léa ou François?
J'ai envie de faire François, je sais pas, parce que je les ai pas lus. Cher animateur, chaque matin, j'ai une routine bien précise pour mon petit déjeuner. Une tasse de thé vert, deux tartines de pain complet avec du beurre et un bol de fruits frais. Pourtant, ma femme me taquine toujours en disant que je ne suis passé à côté de tant de délices matinaux. Je me tourne vers vous. Quels sont vos petits déjeuners préférés? Ai-je vraiment raté quelque chose d'exceptionnel? À table chaque matin, François, qui est la première fois qu'il a utilisé cette formule à table chaque matin.
J'avoue que c'est...
Personne c'est... ne signe comme ça.
À table chaque matin.
À table chaque matin.
Donc vos routines du matin, alors c'est quoi vous? Moi, c'est ton kawa de toute façon, toi.
Ah bah non, tu sais ce que je prends, moi. Toi, tu sais, toi. C'est un petit smoothie, quoi.
Ah, le smoothie,
un petit smoothie, moi.
Ah ouais.
J'adore, moi, je suis en fou de smoothie.
Routine smoothie, ok. Toi, Sébastien, c'est quoi qu'il faut pas louper?
Moi, je suis plutôt salé le matin. Ouais. Donc, plutôt des œufs.
Mmh, bien sûr. Ouais, pas... Des œufs, pas des œufs. Petite blague.
Mais je mange pas beaucoup. Des œufs, pas des œufs.
Donc, toujours le petit guilty pleasure.
Ouais, voilà, du sel.
Alors,
du
comment,
salé,
comment Sébastien Chassagne cuisine ses œufs?
Alors, j'aime bien à la poêle. Et si je peux même me fendre un petit truc de déglacer au vinaigre de Xérès, c'est pas mal.
Chaudière.
Un dernier truc. Pardon?
Gourmand.
Mais enfin, Rémi, on se connaît à peine. Vous me troublez?
Ça va tout de suite. Avec du vinaigre.
Avec un tout petit fond de vinaigre de Xérès parfois, mais ça peut sentir.
Mais comment quand tu fais? Quand tu
J'ai un bas de pyjama, j'ai un pantalon de pyjama uniquement, je suis torse nu.
Oh yeah.
Voilà, et puis de l'eau, je fais un petit truc comme ça. Du verre et des fruits, beaucoup de fruits, j'adore les fruits.
Moi, vous savez, c'est quoi mon petit déj?
Alors, c'est quoi le petit déj de Pierre Lapin?
Qu'est-ce que tu recommandes à François Simon?
L'angoisse.
Un petit peu d'angoisse le
angoisse
matin.
Angoisse et morphinique.
Angoisse, morphinique.
J'arrive pas à manger le matin.
Bah.
Ouais.
Bah alors.
Mais du coup, et je sais que j'oublie des choses. Après, j'étais très actimel, jeune. Je pense que c'est horrible.
Ah oui, non, alors, jeune. Alors là-dessus, oui. Là, j'ai un petit déj dégueulasse. Moi, c'était Ricoré Prince de Lu pendant 10 ans.
Putain, c'était bon ça.
Mais Ricoré, c'est pas Ricoré, un truc d'enfant de 52 ans, ça, Ricoré?
J'étais un enfant de 52 ans.
Ok, d'accord, c'est
Ricoré,
ça.
Trop bon, là, Ricoré.
Ricoré Prince de Lu, mais pendant vraiment 15 ans, je pense. Ah, vraiment. Ouais. Okay. Je suis incapable de nourrir d'autres choses. Donc je te rejoins complètement sur l'actimel.
Ok, ouais, j'avais toujours des hyperfixations.
Il y a des ponts qui se lient sur des trucs assez.
Bah non, mais c'est vrai, tu
sur
vois.
L'actimel.
Mais il faut que je mange plus, c'est bien parce que c'est le repas le plus important de la journée.
Alors je crois que c'est pas vrai ça.
Je crois que c'est ouais, plus ouais, une pub pour les céréales.
Ouais, c'est le lobby, ouais, je pense.
Vraiment, le repas le plus important qu'on a dans la journée, c'est celui qu'on ne prend pas.
C'est vrai ça.
C'est un lobby beaucoup pour du coup.
Non mais tu vois, c'est sûr, moi je suis dans la culpabilité permanente dans ma vie en règle générale. Et tu vois, pour moi, j'ai un esprit un peu obtus, à savoir qu'il y a des heures pour manger. Si je loupe ces heures, je vais être dans un truc très judéo-chrétien à me fouetter et me dire non, tu ne mangeras pas. Tu vois, genre Le sucré et salé, je pense que j'ai 6 ans et demi, hein, mais le sucré et salé, c'est à des heures définies. Si t'as faim là, bah non, t'as loupé ta fenêtre de tir et je me punis. C'est pas rationnel.
Comment tu te punis?
Non, mais juste, bah, je mange pas. Je mange pas, tu vois.
En regardant la bouffe,
très radical. Je pense qu'on parle de troubles, peut-être. Mais après, j'avais des troubles alimentaires quand j'étais petit et tout comme ça, et peut-être que ça continue, mais tu vois, mais il y a des trucs, où, un rapport à la bouffe.
Je pense que, alors, je vais pas m'avancer, je suis pas psy. J'ai l'impression que ça continue.
Ouais, ouais.
De quoi?
Tu viens, je pense, de décrire un trouble.
Ouais, ouais. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, tu vois.
Moi, j'ai été acteur médecin. donc je peux en parler un petit peu. Je pense effectivement qu'il faut pas hésiter à consulter.
Ouais, je pense. Ouais.
Voilà. Ou à forcer un peu. Bah, faut se forcer un peu.
Allez, attends. Plaisir. Non, mais là, non, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais un rapport à la bouffe, c'est compliqué. Mais après, je pense que j'ai l'estomac un peu. Je sais pas.
Oui, non, mais c'est, je comprends.
Mais des fois, quand je bouge, j'y vais, tu vois. Mais le matin, j'aimerais manger plus.
Moi, le matin, je cuisine vraiment, quoi. Genre, je mange énormément le matin. Je me fais des soupes et tout. Moi.
C'est vrai,
toi, psychopathe. Ouais. Ouais, je suis très salé, moi. Très, très salé. Very salty boy. Salty boy, c'est mon nom sur internet, d'ailleurs.
Donc, en soi, François, ta femme se moque de toi, mais tu vois, il y a plein de choses à découvrir dans le matin. Essaie de ritualiser ça. On a une lettre, une dernière lettre de Clara, 18 ans. Qui habite à Bordeaux. Salut à toute l'équipe, je viens de terminer mon bac et tout le monde autour de moi semble avoir un plan bien défini pour leur vie. Moi, je me sens perdu face à l'infinité des possibilités. Comment sait-on que l'on fait le bon choix pour notre futur? Comment avez-vous su quelle direction prendre dans votre vie? Perdu dans les possibles, Clara. Ça, j'aime bien toujours ces fins de phrase cordialement.
Mais... ces petites formules de politesse que...
Mais ça, c'est dur. Déjà, futur. Clara, 18 ans, c'est dur.
18 ans, déjà bravo d'avoir eu ton bac.
Déjà.
Déjà. Surtout cette année où c'était encore une fois particulièrement complexe avec cette réforme qui va s'arrêter d'ailleurs. Qui
au final, oui.
L'année prochaine. Pierre, là-dessus, toi, tu peux en parler parce qu'il me semble que t'as eu plusieurs vies, t'as eu plusieurs orientations post-bac, ce me semble.
Alors, non.
T'as plusieurs cordes à ton arc, on pourrait dire.
Après, est-ce que ça s'est fait full post-bac? Après, moi, le bac, j'ai décidé, vas-y, qu'est-ce que j'aime bien?
J'aime dire quoi exactement, plusieurs cordes à ton arc aussi? D'où c'est venu ça?
Tu veux dire l'étymologie? Parce que quand tu casses une corde, et ben, t'en as une autre à mettre à la place.
Ce qui est quand même un peu la base quand t'es archer, quoi. Genre, je vois pas à quel point on doit mettre vraiment sur un piédestal un archer qui arrive en disant, genre, j'ai pris une corde de remplacement, quoi. Ce qui devrait être un peu la base.
Tout le monde, par exemple, Mbappé, il te casse le pied, et ben, il peut pas devenir comptable. Trompe-toi,
ouais.
Parce qu'il y a deux personnes célébrités qui comptent hyper bien, Olivier Lejeune et Mbappé.
Non, pardon, du coup j'adore l'art, pardon, ouais. Et j'ai fait les Beaux-Arts, là les Beaux-Arts à Lorient, du coup multi, en fait de quoi, de l'archi, de la photo, du web et tout ça. Et donc là j'ai découvert l'argentique, la photo argentique, et au final très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et du coup j'ai pu affiner rapidement et jouir du privilège de pouvoir... à aller à une école photo sur Paris, qui était horrible. Et après, j'ai fait tout de suite la photo. Et après, vu que t'as...
Pas horrible, apparemment.
L'école.
Une école de photo terrible. J'ai trouvé
non,
un
mais
métier
dire, en
instantanément
fait, dire,
après.
C'est des trucs, vraiment, les trucs... La thune, et tu fais ça juste pour les stages, en fait.
Ah, c'est des trucs privés, ça?
Ouais. Du coup, j'ai réussi à sniper un peu la photo. Et après, j'ai eu ce stage aux Inrecuptibles. Et après, j'ai réussi à faire en sorte qu'on m'envoie sur les shootings pour assister les photographes. Donc ça, c'était une chance. Et de là, après, je suis venu en Icono. Et je me suis dit, vas-y, j'arrête l'école. Parce qu'on n'avait même pas ouvert Photoshop, tu vois. Et c'était un peu frustrant, même si on faisait beaucoup d'argentique. Mais j'ai l'impression d'apprendre beaucoup et d'apprendre l'interface Mac pendant un an et demi. Ça a vite fait ses limites. Et du coup, après, j'ai fait la photo. Et voilà, quoi. Mais après, un appareil photo, qui dit appareil photo, dit vidéo. Donc, tu apprends aussi un peu à faire la vidéo. Le monde concurrentiel aussi, c'était l'avènement, tu vois, des 5D, la nouvelle approche de la vidéo. Donc, tu es un peu obligé, Internet. Et après, de fil en aiguille, tu es obligé de cumuler les cordes, quoi. Mais c'est quelque chose qui s'est fait en amont, tu vois.
Après, pour le coup, j'ai l'impression que tu as choisi quand même un truc assez tôt et tu t'y es tenu.
C'est ça, au final.
T'as fait un truc que t'aimais, surtout, j'ai l'impression.
C'est ça.
Tu t'es demandé qu'est-ce que j'aime et t'es allé là-dessus, quoi.
En fait, moi, c'était le monde de la musique, j'adorais ça.
Je trouve que t'es plus un archer qui a vraiment pris énormément soin de son arc.
En vrai, ouais.
C'est beau.
C'est vrai. Et après, je me suis mis une petite arbalète de côté ou quoi que ce soit, tu vois. Et
j'ai
testé les choses. Mais ouais, la musique et la photographie, c'était vraiment les deux trucs. J'ai lié les deux, ce qui m'a permis d'être dans ce milieu-là, de me faire connaître, de rencontrer des gens et de filer en aiguille, voilà quoi. Mais ouais, c'est cet assemblage de ces deux choses qui m'ont passionné, la photo et la musique. Donc là, très vite, j'ai su ce que j'ai voulu faire. Et c'est après... où j'ai décidé d'être bon nulle part et moyen partout.
Voilà.
Jack of all trades.
Ça, c'est pas tout à fait vrai. Du coup, tu es très bon dans un domaine qui est le tien et qui te correspond. Et Pierre Lapin, c'est une marque de fabrique aussi. Moi, je trouve que tu es très bon dans le fait de pouvoir parler de tout ce que tu aimes. Et que mine de rien, c'est ça aussi être bon. C'est pas être pas le meilleur photographe, pas le meilleur Philippe Manœuvre. Tu vois, pour moi, tu es Philippe Manœuvre des jeunes, hein, de fait. Et je trouve que tu es tout ça à la fois, mais tu le fais très bien, à ta manière et avec beaucoup de courage politique. Et je pense que si, tu es bien meilleur que ce que tu crois. Parce que c'est pas tant un problème de technique que d'artistique, quoi. Mais je pense que t'es un bel artiste là-dessus.
Je confirme, mais j'arrive à vendre ce que j'aime faire, mais j'arrive pas à me vendre moi trop. Ça, j'ai encore des défauts à ce niveau-là.
Et donc, ça et le petit déj, c'était vraiment tes deux.
Non, mais c'est vrai, mais j'ai jamais su vendre. Et puis en fait, je me suis reposé sur le lit, j'ai joui de ce privilège-là à chaque fois, j'ai jamais démarché de ma vie, tu vois. Il y a le côté un peu funambule, et je me dis, oh là là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais là, je vibe, quoi. Bref. Et en vrai, mais du coup, pour revenir à 18 ans, moi, je suis un petit blanc qui a eu ce privilège. Moi, j'avais une rupture un peu familiale compliquée.
T'étais déjà blanc à l'époque, du coup.
Rupture familiale un peu compliquée. Donc, du coup, j'ai dû pousser à tenter les choses. Mais j'ai eu ce soutien-là. Et ça, c'est une chance, tu vois. Mais tu vois, Clara, à 18 ans, c'est trop facile de te dire, vois ce que t'aimes et vas-y à fond. Non, je sais pas dans quelle situation
t'es. Toi, t'as jamais hésité ? Tu allais direct en école.
Non, moi j'étais voué à devenir prof de lettres de français même. Moi j'ai redoublé ma seconde, on m'a fait faire une première S et après j'ai fait une terminale L tellement j'étais une bille en S.
Wow.
Et j'étais dans un bahut qui voulait faire du chiffre, donc machin et tout. Et après j'ai fait une prépa littéraire, mais j'avais tellement pas envie. Je voulais faire normal sup uniquement parce qu'on m'avait dit qu'un normal sup pouvait gagner 1200 euros par mois pour ses études. Et moi c'était le Graal, parce que je voulais 1200 balles par mois, je me foutais du reste. Et donc j'ai essayé normal sup, j'ai fait 3 ans parce que j'avais des bons scores, des bonnes notes la première année. Deuxième année, j'ai mon meilleur ami qui s'est inscrit au cours Florent. Et je me suis dit, vas-y, je fais du théâtre depuis que j'ai 7 ans, je vais pas être prof de français, j'y arrive pas. Et après, les petits boulots, les écoles de théâtre, etc. Mais non, j'ai jamais eu le courage de ne venant pas de ce milieu-là et n'ayant pas du tout une famille qui baignait là-dedans, de faire ça, non. Il a fallu que toutes les options se referment pour qu'il ne me reste plus que ce que j'avais vraiment envie de faire, que ce que j'aime. Mais heureusement que les autres n'ont pas marché, quoi. Mais le fait est que quand j'étais à la FNAC Saint-Lazare, alors je me suis fait virer aussi, mais le fait est que quand j'y étais, il se trouve que je gagnais à peu près 1200 euros par mois, je devais avoir 23 ans, un peu moins, 22 ans, et je me disais, c'est bon. Mon projet normalien, je m'en fous, j'ai 1200 balles par mois. En étant à la FNAC Saint-Lazare, tout va bien, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'au début, les premiers salaires, t'as vraiment l'impression que t'as compris l'intégralité de la vie.
C'est fini, quoi. Ouais.
Et toi, Rémi, toi, à 18 ans, t'en étais où?
Moi, je fais n'importe quoi.
Bah, déjà, à 18 ans, j'avais pas mon bac. Hein. Déjà, Clara,
moi,
déjà, t'avais 18
mon
ans,
bac,
ton bac, c'est bien.
Je suis parti voyager pratiquement instantanément.
Ok.
Après, à chaque fois, je rentrais en France pour faire des petits boulots. Je repartais voyager jusqu'à 25
ans. Et quoi, dans un délire de white savior? Dans un délire je vais voir le monde?
Mais non, c'était les premiers voyages, c'était les petits trucs. Je suis parti en Irlande, j'ai bossé en Irlande, ensuite je suis rentré.
Ce truc backpack, enfin, c'est truc quand les gens qui vont en Australie ou tout ça, c'est ça, ouais.
Mais backpacker sans trop de thunes, du coup, Irlande, et à chaque fois je travaillais. Genre, je trouvais un taf direct. J'étais testeur de jeux vidéo. Je bossais sur Guitar Hero.
T'étais testeur pour qui?
Activision.
Ok. Ah, Activision, ok.
Ouais, et Guitar Hero World Tour, j'étais dessus.
Ah ouais.
Ouais, si tu le finis là, sur Xbox, que sur la version Xbox et Play, il y a mon nom à la fin, sur les autres, j'étais pas dessus.
Putain, c'est beau ça.
Ouais, c'était assez ouf. Et je suis rentré parce que je gagnais genre 2500 balles par mois.
C'est énorme.
C'était énorme. J'étais dans une coloc de 10 personnes.
T'étais hyper jeune, non, en plus.
Ouais, j'avais 19 ans. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'arrête, parce que sinon, ça va être ma carrière, quoi.
Ok.
J'ai dit, il vaut mieux pas quand même. Ouais, j'ai pré-shot. Je me suis dit, il vaut mieux que je fasse des trucs. Ouais, c'était la folie.
J'aurais fait ça toute ma vie. Quoi.
Et quand je suis rentré, j'ai eu un truc de. Ils m'ont remboursé les taxes que j'avais payées là-bas.
Ok.
Comme j'habitais plus en Irlande, ils me remboursaient ce que j'avais donné à l'Irlande, quoi. Du coup, j'avais touché genre 5000 ou 6000 balles en rentrant en France. Et je suis genre, voilà. Comme ça, j'étais genre, qu'est-ce que je fasse de plus? J'ai 5000 balles. Donc, j'ai commencé un truc à la fac. Je me rappelle, je faisais administration économique et sociale. Je suis resté genre 6 mois. Je suis genre, mais n'importe quoi, pas du tout. Je suis reparti. Et je suis allé faire des petits tafs, vraiment des petits tafs là. Je travaillais dans des cuisines en Écosse. Et après, je suis rentré. Après, je suis parti en Asie.
Ouais, mais ça c'est un truc, une frustration de pas avoir pu, enfin non, pas du tout une frustration, mais tu vois, de faire de ces petits boulots et tout ça, enfin moi j'avais déjà une optique où, avec la myopathie et tout ça, j'avais un tronc de vie déjà que je pouvais pas faire des choses ou d'autres, tu vois, enfin il y a des trucs, la vraie vie, je peux pas la faire, tu vois.
Ouais, les petits boulots, c'est pas la vraie vie, parce non, que mais... tu passes comme un, enfin tu passes de manière très éphémère à côté de gens dont c'est la vraie vie.
Ouais.
C'est-à-dire que les petits boulots, faut voir quand même. On dit c'est galère, c'est marrant, mais en vérité ça a duré 2 mois, 3 mois, 1 an à tout péter. Ouais. Mais quand j'ai fait de l'intérim, je passais les trier des stylos billes à Auchan, tu vois des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, etc. Et c'est là qu'est le vrai.
Ouais, mais après t'as pas l'effet un peu pour qui tu te prends aussi de penser comme ça. Enfin, moi j'avais ça quand je bossais à la Fnac, mon patron, je m'appelle, s'appelait Bruno, et c'était un gars qui il faisait clairement plein de muscu, il avait, tu sais, je me rappelle, vraiment un cul, mais tu sais, qui faisait trois
Bombay.
Fois ouais. Et il mettait son pantalon méga serré avec sa chemise dedans, et il parlait que de chiffres, tu sais, il nous faisait faire du facing tout le temps, là il arrêtait pas de dire le facing c'est pas comme ça, tu dois... Et je me disais genre, mais quelle merde, quoi, ce gars là c'est vraiment la plus grosse des merdes que j'ai rencontré de ma vie,
aliéné par le taf,
ouais, finalement. Et après je me disais, mais en même temps, enfin écoute, il a l'air de se régaler dans ce qu'il fait, il veut le faire à fond. Moi, c'est pas mon truc, je me casse. Mais, enfin, je sais pas si t'as. Moi, non, souvent, je me suis dit, mon Dieu, ces gens-là sont coincés là-dedans. Mais.
Moi, je me disais, mon Dieu, pas penser. Non, moi, je me disais, je peux pas me comparer à eux. C'est-à-dire que je peux pas comparer. Je me disais souvent, je peux pas comparer ma pénibilité à eux. C'est-à-dire, j'étais pas dans un tel. J'étais pas dans le jugement vis-à-vis des autres.
Même quand ils te forçaient à vendre des assurances.
Ah, mais si, ça, je trouvais ça odieux. Mais c'était les patrons, c'était pas mes interlocuteurs directs, tu vois.
Ah, moi, c'était.
Enfin, je les voyais une fois toutes les semaines.
Ah, ouais, si, moi,
si, moi. Et mes N+1, bien sûr que je m'entendais moins bien avec eux, mais je parle de
mon entourage, les camarades.
Ouais, je parle du fait que toi, t'es là en train de faire de l'intérim et tu vas pas t'imaginer que tu sors de la mine et que tu travailles depuis 8, tu vois, depuis que t'as 8 ans, c'est ce que je veux dire. Tout ça pour dire que c'est un truc marrant qu'on a tous fait, mais c'est aussi un peu exotique en fait, notre manière de parler des.
Ouais, justement, je voulais pas exotiser, mais au-delà de ça, c'était juste de me dire de confronter à la vie et de. Que moi je suis obligé de développer un sens artistique parce que cette vie là je peux la permettre de la tanker physiquement. C'est ce que je veux dire, parce que moi si je fais du boulot enfin tous les matins tous les jours à des heures fixes, bah j'ai pas de période de cool down et physiquement je vais cumuler et après ça va péter. Donc c'est vrai que moi déjà à cet âge là je devais trouver des tafs qui je pouvais juste vivre en fait.
Après tu finis là par faire des trucs qui je pense 80% des gens seraient épuisé aussi.
Ah non, mais là, mais moi, là, je suis au bout de ma life et la morphine.
Je sais pas comment t'arrives.
Mais tu vois, là, je vais le payer pendant 6 jours. Ouais. Je peux aussi me permettre ça. Et en fait, moi, j'ai tout à un coût beaucoup plus élevé que tout le monde, tu vois. Mais je peux, mais j'ai pas d'autre choix. Donc, aussi, il y a ce côté de la contrainte née parce que je suis devenu aussi. Mais après, on n'est pas tous pareils. Il y a le côté où on est valide ou pas. Et c'est compliqué à 18 ans aussi de savoir. Donc, je sais pas si tu es valide ou pas, Clara. Mais voilà, mais en tout cas. S'il y a des conseils à donner, aucun. Vas-y.
Moi, j'en ai un.
Un conseil, ouais.
Pendant 2 ans, j'ai hésité beaucoup.
Ouais.
Entre, à l'époque, j'étais ingénieur, chef de projet dans l'aéronautique.
Bien sûr.
Et tout plaqué pour faire du podcast. Et pendant 2 ans, j'ai hésité. Et c'est ça le pire, en fait. C'est hésiter.
Ouais.
C'est à un moment, je peux pas dire comment faire le bon choix, c'est ce qui était la question.
Ouais.
Mais je peux dire que le pire, c'est de pas faire de choix.
Ouais, ouais, tout à fait. Surtout qu'à 18 ans, t'as encore le temps de te retourner, en théorie.
Ça, par contre, ça, c'est la vérité de te dire qu'il y a. Quand tu te lances, ça va pas être ça toute ta vie, quoi. Ouais. Moi, je sais que c'est une angoisse, que ça paraît être le marronnier et débile à dire, mais quand j'étais gamin, je me dis, bah, ça y est, ma vie est tracée, pas d'autre échappatoire.
Ah ouais ? Putain, c'est un truc que je me suis jamais dit, moi.
Ah ouais, si. Hein.
Je crois que j'ai commencé à réfléchir vaguement à ce que j'allais faire en ma vie à 26 ans, un truc comme ça.
Okay.
Genre vraiment avant, je dis, vas-y, je verrai plus tard, quoi.
Ok.
Là, c'est à peu près le moment où j'ai arrêté de réfléchir à ce que j'allais faire.
Ouais, mais le problème, c'est que tu payes aussi le prix de vivre comme moi d'une autre façon. Genre, j'ai l'impression d'avoir un peu trop vécu de trucs avant de me remettre, entre guillemets, dans la vie normale, tu vois. Et même, je voyais. En parallèle, mes amis qui, eux, avaient emprunté des chemins qui étaient un peu plus traditionnels. Et à chaque fois que je rentrais en France et que je les refréquentais, j'étais genre, ah ouais, on n'est plus du tout sur la même vision des choses, quoi. Et c'est un peu bizarre. C'est pour ça que je me suis installé à Paris aussi. Je me suis dit, vas-y, ici, j'ai encore un peu le truc exotique de ces grandes villes. Et je peux faire... Moi, les petits boulots, c'était même plus exotique. Hein. Genre, tu sais, quand je suis rentré, vu que j'avais aucun plan de vie... Bah, je me suis dit, ok, il faut que je trouve le petit boulot où je vais continuer à faire ce petit boulot. Au début, je bossais dans les bars et tout, tout en ne buvant pas d'alcool et en n'aimant pas particulièrement la fête et tout ça. Du coup, je me suis dit, je peux faire ça d'une manière professionnelle, entre guillemets, tu vois, le faire de manière froide et juste pour gagner un maximum d'argent tout en travaillant le moins possible. C'est pour ça, après, j'ai fait gardien de nuit dans une auberge de jeunesse parce que je me suis dit, il n'y a pas plus planqué. Je me suis fait virer de tous mes tafs.
Ok. Ouais.
Il n'y a aucun taf, je me suis pas fait virer. Et je pense que ça, c'est un petit signe de genre un moment. Et tout ça, et je raconte tout ça en écrivant des sketchs. Hein.
Ok.
Depuis que j'ai 10 ans quoi.
Quand fil rouge, t'avais toujours quand
fil
même
rouge, j'avais
chose.
Toujours les sketchs. Ouais. Et c'est à Paris quand même quand j'ai commencé à écrire des sketchs pour, bah, pour les écoles, genre pour les mecs qui faisaient leurs trucs de fin d'année d'école, le truc comme ça, je leur écrivais des petits courts-métrages, des trucs comme ça, et c'est ça qui m'a amené plus dans l'écriture. Et après le stand-up, parce que pour m'occuper en attendant de trouver des trucs dans l'écriture, au final, vraiment le stand-up a. Enfin, non, j'ai même plus envie d'écrire, je préfère pas le stand-up. Okay. Mais je suis pas sûr, ouais, que t'es.
Faut identifier.
T'es pas obligé de réfléchir
alors
à ce que tu dois faire après. Non, je crois pas.
Même
hein
pas.
Okay. Je crois que t'as pas besoin de fil rouge, quoi. Après, ouais, là, je pense qu'on parle peut-être tous d'un point de vue un peu privilégié. De,
bah,
on a
ça
vraiment complètement. Moi, j'avais l'amplitude complète de pas réfléchir.
Tu vois, je sens con. Oui, non,
j'étais ça quand même à un moment donné. Enfin, je
ah, moi, j'ai jamais eu de thune, hein. J'avais pas de thune. Mais enfin, j'ai jamais été. J'étais toujours au SMIC plus plus, tu vois, genre les 1500, 1600 grand max quand vraiment j'avais des bons pourboires au bar. Où,
ouais.
J'ai jamais fait plus que le SMIC avant de rentrer à la vraie terre. Mais c'est même pas un truc d'argent. C'est un truc de pas de soucis de si j'en ai plus.
Oui, c'est un truc de disponibilité ouais intellectuelle aussi, mmh, complètement.
C'est ça.
Et en fait, ça c'est déjà l'énorme privilège. Ouais.
Tout à fait.
Ouais. Du coup, ouais, je pense que. En fait, c'est ça, du coup, pour résumer. J'espère que t'as des privilèges.
Bah c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est horrible.
Sinon, j'espère que tu es proprio à 18 ans.
Sinon, on va t'appeler.
Non, parce qu'on va pas te fumer après la tête à la méritocratie et tout ça, donc non, voilà, donc ouais, je sais pas. C'est dur, hein.
C'est
et
très
en,
dur.
Temps, en même temps, on est juste, pardon, GPT, hein. Merci en tout cas d'avoir suivi ce doux épisode. Merci beaucoup, Sébastien. Bref, j'espère que t'as passé un bon moment.
Qui c'est à moi ?
Oui.
Oui, ça va.
Voilà. voilà.
Honnête.
Non, bref, merci beaucoup. On peut te retrouver. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de mettre en avant ou pas du tout, mon très cher Seb ?
Putain, j'oublie, je suis une cacahuète en promo.
Attention, Pierre est allergique. Donc,
ça fait une cacahuète. Je suis une cacahuète vraiment là. Les gars, je suis une cacahuète.
Le gars, c'est une cacahuète. C'est une cacahuète.
Et le retour de Roman.
Roman Frisnet qui revient.
Le mec, c'est une cacahuète.
Non, j'ai Yannick toujours au cinéma.
Incroyable.
Voilà. Et puis je reprends une tournée en Bretagne.
Bah ouais.
Du spectacle qui s'appelle Le rêve et la plainte. Quand je joue à Saint-Brieuc, à Guingamp, etc. Toute la fin de l'année. Et après, je suis en tournage.
C'est une grande comédie sur dramatique sur le BTP.
C'est quasiment.
Ah ouais.
Bah, ouais, bah, c'est un peu. Il y a complètement.
Okay.
Oui, sur c'est les derniers jours de Marie-Antoinette et du BTP. C'est vraiment ça. Non mais tout à fait, c'est exactement.
Sortez-moi cette salle. Fait, non, vois, mais regardez, c'est mûr.
Ça fait deux ans que j'arrive pas à
pitcher moulure
ce truc. C'est ça.
La complainte du BTP.
Voilà, un spectacle qu'on avait joué au Bouffe du Nord et qui est en tournée maintenant. Et voilà, et pour le reste.
Gaston Lagaffe 2, quoi.
Gaston Lagaffe 2.
On croise.
Inch'Allah. Voilà, c'est pas on le souhaite, c'est le titre.
Oui, oui. Gaston Lagaffe 2,
Inch'Allah.
Ça va être bien, ça va être du grand. Bah, plein, on souhaite. En tout cas, moi, je suis trop heureux.
Bah, gros bisous, merci beaucoup.
Bah, ouais, merci. On se retrouve, Rémi.
Rémi,
on te retrouve
t'as passé
où,
un bon moment ?
Bah, toujours, moi, je
bah,
me
ouais
régale. Je serai à partir. Ça sort quand, là, voilà. Je suis désolé.
Comme d'hab.
Le 20 septembre.
Ah, bah, très bien. Je serai demain.
Ok.
À la nouvelle scène à 21h.
Ok.
Il reste des places.
Ok.
Peut-être qu'au moment où cet épisode sort, il n'en reste plus de place.
Je parie qu'il restera quelques places. Tous les jeudis à 21h.
À la nouvelle scène.
Ouais, à la nouvelle scène. Une magnifique péniche sous Notre-Dame.
Barre de follow sur Insta.
J'ai plein de dates de tournée, il faut regarder sur Instagram.
Insta. Zu.
Bah, suivez le compte Pardon GPT. Envoyez-nous des mails à
contact.pardongpt@gmail.com.
Voilà, donc envoyez-nous vos courriers et puis bah, peut-être que ce sera sélectionné pour qu'on y réponde.
Voilà.
Et puis, bah, continuez de nous suivre, à partager nos reels.
Oui. Et, et les autres podcasts à côté
Et je continue de faire plein d'autres podcasts à
ouais,
côté. Voilà.
D'accord, on te suit ZuPod sur Twitter aussi.
Ouais.
Oui, donc n'hésitez pas à noter 5 étoiles le podcast sur tous vos applis de podcast. C'est important pour être bien référencé et faire barrage à l'extrême droite, car j'ai vu que Raptor Dissident était top 1. Fais chier, merde.
Ah merde, il existe encore ?
Oui, c'est le numéro 1 des podcasts, donc merde. Je deviens Booba. Je veux me clasher avec des gens. Non, mais n'hésitez pas. Et puis même, je suis en demande, et c'est un peu frustrant le podcast, c'est au niveau des feedbacks. J'avais toujours l'habitude à l'espace commentaire sur des vidéos ou même sur le chat de Twitch. En vrai, moi je serais très heureux de lire vos feedbacks sur notre adresse mail, donc n'hésitez pas à nous dire, ou même sur les réseaux. Moi je serais très 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 curieux, parce que je regarde pas forcément les stats, mais j'ai envie de savoir que je m'adresse à des gens, donc je serais très curieux. Donc n'hésitez pas, suivez-moi sinon sur twitch.tv/pierrelapin un peu partout. Et voilà, donc on se dit à dans 15 jours, mercredi dans 15 jours, et puis à très vite, et promptez bien les amis, au revoir.
Des bisous.
Bye.
n'y avait pas une scène post-générique?
Bah, si, ah si,
mais qu'on
si,
va faire quoi. Après,
ah, pardon,
le...
pardon, putain. Après
alors,
le générique,
revoir,
du coup.
Voilà.
Eh oui. Je regarde. Il faut que je regarde. Je peux regarder
oui,
ou pas?
Oui, tu peux. Bah, t'as un rôle dedans. Hein.
Ah, il faut que je chante. Il faut que je chante.
Je vais vendre ses crêpes. Il vend ses crêpes. Il vend ses crêpes. Je vais vendre une crêpe. C'est des galettes ou des crêpes? Je ne sais pas.
Je vais nettoyer mon pare-brise.
Oh. Belle archive, en tout cas. Mais ensuite, après...
C'est vrai que c'est une belle
il l'a refait encore. C'est...
Fermez vos gueules.
Pardon, pardon.
Pourquoi on dit S4? On dit
qu'est-ce que tu fais avec mon frigo?
Quoi?
Mais mec, non, j'essaie de le vendre, ce frigo.
T'es en train de le souiller? T'as souillé son frigo?
J'ai fait des offres sur son frigo.
Mais c'est quoi, c'est eBay?
Ah, c'est le bon coin, j'essaie de vendre
un frigo. J'avais fait une qui était vraiment pas chère.
Et putain, ça s'est rééteint.
50 balles, non, le frigo? Tu le vends combien?
200. Ouais.
Il est énorme, mais c'est un frigo de 2 mètres combiné cogelo. Il fait 2 mètres d'eau.
Ah, ouais, il est énorme, alors. J'ai cave.
Et fais voir les autres trucs dès que je peux. Je
oh, c'était juste
écrit.
Les lettres des auditeurs là,
ouais,
qu'on
Clara,
avait.
Qu'est-ce
on avait
qu'elle avait
Clara, qu'est-ce qu'elle avait?
L'angoisse.
Et puis, putain, t'as vraiment fait une offre.
J'ai l'impression qu'on a fait le temps. Quoi.
Mais ça, si enfin... j'arrive pas à vendre ce frigo par ta
tu vas le vendre. C'est des
non, elle est
on fait Clara
Rémi, je suis pas d'accord.
Rémi, on fait Clara.
Ouais, vas-y.
Parce qu'elle est pertinente cette question en vérité.
Attends, j'essaie de vendre le frigo de Zu en même temps.
Mais non, mais arrête. Mais Clara, il y a vraiment des vrais gens là aussi.
Non, c'est des faux.
Ah, c'est que
ça, c'est GPT, quoi. Mais c'est... Zu.
Eh bien, je vends des frigos.
Ok, ah, c'est important.
Vrai, ouais. Okay. Non, oui, c'est très important, ça.
Okay.
On notera que Rémi m'a vraiment fait perdre la vente de ce frigo.
Mais je sais pas ce qui s'est passé, vous étiez là, j'ai pas
compris. Bah, alors, donc, les écrans sont dupliqués.
Ok.
Et... sur celui-ci, bah, la seule fenêtre qui restait, c'était Le Bon Coin. Et Rémi, il avait fait des offres et tout. Et donc, je fais... excusez-moi, c'est mon petit frère. Il a pris... Il a joué avec mon ordinateur. Et là, il me fait... Non, mais... Si c'est le bordel, si c'est comme ça, je le prends plus. Voilà.
Chiant.
Merci, Rémi.
Cameron, quel est le problème avec le patient d'aujourd'hui?
Docteur, c'est Monsieur Dupont. Il affirme qu'il a des douleurs abdominales intenses après avoir mangé du porridge chaque matin. Mais les tests sont tous normaux.
Docteur House Morning, je vous en prie, aidez-moi. Chaque fois que je mange mon porridge, j'ai cette douleur atroce.
Le mystère du porridge mortel. Bon, dites-moi, monsieur Dupont, ajoutez-vous quelque chose à votre porridge?
Juste du lait, du sucre et parfois des fruits frais.
Bah, des fruits. Quels fruits exactement?
Des baies, généralement.
Docteur, nous avons vérifié. Les baies ne semblent pas être la cause.
Cameron, moi j'ai fini mes études de médecine, contrairement à vous. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours la cause la plus évidente, jusqu'à ce que ça ne le soit pas, qui est toujours la vraie cause. J'ai pas fini mes études de français, par contre. Monsieur Dupont, où achetez-vous ces baies?
Chez mon voisin, il a un petit jardin.
Il a un petit quoi? Il a un petit quoi, monsieur Dupont?
Monsieur,
excusez-moi, j'avais quelque chose dans la gorge depuis le début. Chez mon voisin, il a un petit jardin.
Ah, je parie qu'il utilise des pesticides. Vous avez une réaction allergique à l'un d'eux. Cessez d'acheter ces baies, vous irez mieux.
Putain, docteur, oh! J'aurais jamais pensé. Merci, docteur. Qui aurait cru que un des trois ingrédients me rendait malade?
Eh oui, comment on allait chercher des antihistaminiques? Ah. Vous devriez réfléchir avant de manger. Et vous, Cameron, vous devriez chercher au-delà de l'évidence.
Toujours une leçon avec vous, n'est-ce pas, docteur?
La nutrition, Cameron, est un mystère que nous devons résoudre. Un petit déjeuner à la fois. Un petit déjeuner à la fois.
Attention, cette scène est une parodie et n'a aucun fondement médical réel. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour tout problème de santé.